Bonsoir. Bonsoir.
Good evening, everybody. Mon nom est Véronique Bélanger. Je suis doyenne adjointe à la faculté de droit de McGill. Et j'ai le grand plaisir de co-organiser cette série de conférences de formation continue avec mon collègue Pierre-Emmanuel Moïse, qui est professeur à la faculté et directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième conférence de la série 2015-2016. Think Ahead conferences are focused this year on surviving technology. Tonight we will talk about how the information society has turned into a supranational knowledge society and digital economy. No discipline can claim a monopoly on regulating its unbridled development. In that context, can law still play its fundamental role of protecting individuals? We hope that tonight's presentations will bring some answers to that question. Avant de vous présenter nos quatre conférencières, nous avons un line-up tout à fait féminin ce soir, j'aimerais prendre un court instant pour m'adresser plus particulièrement à l'une d'entre elles. La professeure Alexandra Bensamoun est directrice du CERDI, le Centre d'études de recherche en droit de l'immatériel à l'Université Paris-Sud. Elle est arrivée à Montréal il y a quelques jours avec son collègue Arnaud Latil, également chercheur au CERDI et maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne, pour participer à une série d'activités scientifiques au Québec. Il me manque une page, mes pages sont mal... Alors, nos collègues parisiens ont l'immense générosité de participer à la conférence de ce soir, malgré les événements terribles qui se sont déroulés à Paris vendredi dernier. Ils ont pourtant été touchés de près. On me dit que 3 étudiants et 2 chercheurs de la Sorbonne sont au nombre des victimes des attentats. Alexandra, Arnaud, je tiens à saluer votre présence ici ce soir. Comme tous les Québécois, nous sommes profondément choqués et bouleversés par ces violentes attaques. Alors, au nom de Pierre-Emmanuel, en mon nom, en celui de la faculté et je pense en celui de toutes les personnes présentes ici ce soir, je veux vous assurer de notre amitié, de notre appui et de notre solidarité. Merci d'être parmi nous. J'ai maintenant une tâche plus agréable, celle de vous présenter donc nos quatre conférencières. La première qui nous parlera ce soir, Maître Héloïse Graton, est co-chef national du groupe Respect de la vie privée et protection des données au cabinet BLG. Elle est spécialiste de toutes les questions touchant la protection de la vie privée et la loi anti-pourriel. Maître Graton figure parmi les principaux experts canadiens en matière de protection des renseignements personnels. Elle a publié plusieurs livres sur les questions de protection de la vie privée. Son plus récent ouvrage, publié en 2015, est intitulé « Practical Guide to E-commerce and Internet Law ». Maître Graton est aussi régulièrement appelé à commenter des questions d'actualité touchant les nouveaux médias et les questions relatives à la vie privée. Elle nous parlera plus particulièrement ce soir du rôle des lois relatives à la protection de la vie privée. Je le disais tout à l'heure, donc, notre deuxième conférencière, Alexandra Bensimoun, est professeure à l'Université Paris-Sud, où elle dirige le Centre d'études et de recherche en droit de l'immatériel, ainsi qu'une formation spécialisée de deuxième cycle, le Master en droit du numérique et droit de la propriété intellectuelle. Madame Bensimoun travaille aussi régulièrement pour le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, un organe de conseil auprès du ministère de la Culture de la France pour l'évolution du droit d'auteur et son adaptation au numérique. Sa présentation ce soir s'intitule « La République numérique en France, beaucoup de bruit pour rien ?» Point d'interrogation. Our third and fourth speakers are Professor Shauna Van Praagh and Ms. Alyssa Wiseman. Many of you, of course, already know Professor Van Praagh, who has been at the faculty since 1993. She teaches in the areas of the law of civil wrongs, common law obligations, social diversity in law, and children and the law. Her current research interests include legal education, religion and law, and children in the law of civil wrongs. Alyssa Wiseman, and I think it's a first tonight, we have a student participating in our conference. So Alyssa is a student in the faculty. She is currently completing her final semester in the Law MBA joint program. She graduated with a BA in psychology from McGill in 2011. Next, she will be going to Quebec Bar School and will begin her stage next summer with Davies, Ward, Phillips and Weinberg in Montreal. Professor Van Praagh and Ms. Wiseman will talk to us tonight about research they are doing together on cyberbullying. Their talk, entitled New Encounters, The Challenges of Cyberbullying, comes out of interdisciplinary work done at the Define the Line Research Center, founded by Dr. Sharif from the McGill Faculty of Education. Through projects funded by Facebook and the Social Sciences and Humanities Research Council, Define the Line seeks to inform national and international cyberbullying policy, foster digital citizenship amongst youth, and support legal literacy for children, parents, educators, and administrators. Please join me in welcoming our speakers. And so, before we begin the formal part of our program, let me make a few housekeeping announcements. Even though our focus this year is on technology, I will still ask that you turn off anything that buzzes or rings. For those of you attending for the first time, please note that we are live streaming the lecture in an overflow room. So during the question and answer period at the end, we will ask that you use the microphones that students will pass on to you, and that's to make sure that the other participants in the overflow room can hear your question. There will be one break this evening around 7:30. During the break, those who need them will find washrooms in the basement. You can also get snacks from a table manned by law students in the atrium. Tonight, the proceeds will go to support Project 10 that works to promote the personal, social, sexual, and mental well-being of LGBT youth and young adults. Please give generously. In the next few days, you will receive an email with an attestation certificate. If you haven't done so yet, please make sure to register at the table in the atrium so that we know you are here and we can send you your certificate. And so I will now say again how pleased we are to see you and pass the floor to my colleague Pierre-Emmanuel Moïse.
Pierre-Emmanuel Moïse, directeur du Centre de propriété intellectuelle de McGill. C'est encore un plaisir de vous recevoir dans l'intimité de notre institution, qui est la vôtre. Vous êtes chez vous ce soir. Les biographies ne disent pas tout, et l'information que je vais préciser ici maintenant, c'est que notre première conférencière est titulaire d'un doctorat qu'elle a fait en co-tutelle avec Paris-Sorbonne, Paris 2 et l'Université de Montréal. C'est un fait qui doit être souligné, c'est assez rare. Donc elle est toute experte dans la matière. Maître Héloïse Graton, docteur Graton.
Alors merci pour la charmante introduction. Voilà. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Mes acétats sont en anglais, mais on m'a suggéré de présenter en français pour s'assurer que c'était bien balancé, là, anglais-français. Alors, évidemment, s'il y a des questions en anglais, ça me fera pris le plaisir de vous répondre dans la langue de votre choix. Mais donc, ce sera une présentation un peu bilingue. Et je comprends que la plupart d'entre vous pratiquez le droit, mais au lieu de faire une présentation qui toucherait aux lois en matière de protection de renseignements personnels, qui serait un peu trop pratique, là, j'aurais pu en faire une, évidemment. J'avais envie de vous amener ailleurs, discuter de ces lois-là, d'où est-ce qu'elles viennent, ces lois-là, c'est quoi les défis qu'on a et qui s'en viennent, au regard des nouvelles technologies, évidemment du web, mais des nouvelles technologies aussi qui s'en viennent, avec les applications, dans certains cas, il y a des données de localisation, l'Internet des objets, etc. Alors, évidemment, si vous avez des questions plus pratiques ou concrètes, ça me fera plaisir d'y répondre, mais j'espère vous élever un petit peu là à bien comprendre l'origine de ces lois-là. Donc, pour le titre, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris le titre qui était là, puis je me suis dit, c'est absolument ça dont je parle. J'ai juste mis « privacy laws » au lieu de « laws ». Est-ce que les lois en matière de vie privée jouent toujours leur rôle aujourd'hui? C'est une excellente question. Il y a énormément de défis. Et pour bien comprendre les défis, c'est intéressant, comme je disais, là, de retourner un peu en arrière. Donc, Vous remarquerez que quand on parle de nos lois en matière de vie privée, on parle en fait de lois en matière de protection de renseignements personnels. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a beaucoup de chevauchements, évidemment, mais c'est pas la même chose et je vais vous expliquer d'où est-ce que ça vient. Donc, au fil des années, la vie privée a été conceptualisée de façon différente et souvent c'est suite à un événement ou une nouvelle technologie. On se pose des questions, on dit qu'est-ce qu'on veut protéger ici sous le concept de vie privée et c'est une notion évidemment qui évolue. Donc, dans un premier temps, la notion de vie privée, bien en fait, il y avait pas de vie privée avant l'urbanisation. Hein, c'est vraiment là les villes avec les gens qui ont des voisins de plus en plus collés, avec des publicitaires qui veulent contacter ces gens-là. C'est dans ce contexte-là qu'est né le concept de vie privée. Donc, c'est un concept relativement récent. À la fin du 19e siècle, dont 1885, il y avait beaucoup d'enjeux avec les caméras qui étaient de plus en plus accessibles pour les journalistes et l'imprimerie. Alors, dans ce contexte-là, il y avait des journalistes qui prenaient des photos un peu à la paparazzi. On prenait des photos, on les publiait dans des genres de journaux à potins. On appelle ça le « yellow journalism ». Et à ce moment-là, on a décidé de conceptualiser la notion de vie privée comme étant, en anglais, on l'appelle « the right to be let alone ». Hein, c'était ça, ce moment-là, c'était la façon d'adresser vraiment qu'est-ce qu'on voulait régir, qu'est-ce qu'on voulait réglementer. Et puis, au fil des années qui ont suivi, on remarque que la jurisprudence tourne autour de ce concept-là toujours. On veut être laissé en paix, on veut avoir une certaine intimité. On ne veut pas que notre vie finalement privée soit exposée. C'est un peu ça l'idée derrière ce concept-là. Donc, on avance plusieurs années. Fin des années 40, on décide, surtout en Europe, de réouvrir ce concept-là en se disant. C'est pas tout à fait ça vraiment qu'on veut adresser comme problème. Suite aux atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, on se disait qu'est-ce qu'on veut vraiment protéger au niveau de la vie privée, puis c'était vraiment ce qui se passe dans la maison. Les communications personnelles, les choix, la vie de la famille, donc implicitement aussi la religion de l'individu, sa façon de vivre, qu'est-ce qu'elle mange, etc. On voulait éviter justement des listes avec des religions puis qui circuleraient. On voulait finalement laisser les gens tranquilles et leur donner une certaine intimité dans leur maison. Donc, à ce moment-là, le concept de vie privée a été, je dirais, reconceptualisé comme étant le respect de l'individu dans sa demeure. Par la suite, je dirais, vers la fin des années 60, encore une fois, c'est intéressant, puis même quand on voit quand il y a un passage, je dirais, de la vague 1 à la vague 2, on voit que pendant quelques années, dans la jurisprudence, on est un peu mêlé entre les deux concepts. On n'est pas certain exactement de qu'est-ce qu'on veut adresser comme enjeu. Fin des années 60, on se pose des questions, on est un peu paranoïaque en Europe, il y a toutes sortes de nouvelles technologies, des petites caméras de surveillance qui sont cachées, on est très très inquiet avec la publicité subliminale, bon, il n'y a pas eu des gros enjeux depuis, mais bref, on est conscient qu'il y a des nouvelles technologies, qu'il y a des nouveaux enjeux, qu'il y a des collectes de renseignements. Alors on a fait une étude, on a lancé une étude qui a duré quelques années en Europe, et la conclusion de l'étude, c'est que oui, il y a toutes sortes d'enjeux, de nouvelles technologies, mais l'enjeu le plus pressant, c'est vraiment la montée grandissante des bases de données automatisées. Alors, on s'est dit, il faut adresser ce problème-là. Et vraiment, c'était ça l'inquiétude. Il y avait de plus en plus d'organisations du secteur privé, du secteur public qui utilisaient des ordinateurs, qui montaient des bases de données. Alors, c'était plus une liste de clients papier, c'était automatisé. Et on se disait, ces organisations-là vont s'échanger ces bases de données-là facilement et les individus vont perdre le contrôle sur leur renseignement personnel. Donc, la grande peur, la grande inquiétude, c'était l'individu qui arrive à la banque pour obtenir un prêt et puis le banquier qui lui dit... je peux pas te donner un prêt. Ah, pourquoi? Ben, sur la base des renseignements que j'ai ici, OK, mais c'est quoi les renseignements que vous avez? Est-ce que vous êtes certain que c'est mes renseignements? Qui vous les a transmis? Est-ce que ces renseignements-là, ils sont à jour? Alors, c'est de là qu'est venue, la troisième vague où on a conceptualisé la vie privée comme étant le contrôle de l'individu sur ses renseignements personnels. C'était pas parfait, mais on s'est dit ça va adresser le gros du problème. On n'a pas à se casser la tête à savoir c'est quoi exactement définir la vie privée. Surtout que c'est une notion relativement subjective. Pour quelqu'un, ça va être quelque chose. Quelqu'un d'autre, ça va être différent. On s'est dit on va garder ça simple. Donc, nos lois, aujourd'hui, nos lois en matière de vie privée, ce sont des lois en matière de protection de renseignements personnels. Bon, au Québec, on a aussi le Code civil, on a d'autres lois qui viennent, je dirais, compléter, mais à la base, quand on parle de la loi fédérale, la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, et les trois provinces qui ont leur propre loi, c'est l'Alberta, Colombie-Britannique et le Québec, Ce sont des lois qui datent donc des principes qui ont été établis en Europe au début des années 70 qu'on a importés. Et l'idée est très simple. On dit aux individus, voici ce qu'on collecte à votre sujet et voici l'utilisation qu'on compte en faire. On obtient le consentement, on s'assure qu'on protège les renseignements et le tour est joué. Donc, c'est très, les principes, je dirais, c'est 10 principes qui se chevauchent jusqu'à un certain point, mais on s'est dit, on va adresser les problèmes de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On l'appelle notification et choix, notice and choice, dans le sens où on dit ce qu'on fait et puis on obtient le consentement et puis on respecte les lois de cette façon-là. Et le défi, c'est que c'est difficile aujourd'hui, avec le volume de renseignements personnels, de garder le contrôle. Alors, je pourrais faire une présentation simplement là-dessus. Et juste avec qu'est-ce qui s'en vient aussi, je le vois pas. Et d'ailleurs, le gouvernement est vraiment en train de se poser la question, est-ce que le consentement, ça fait toujours du sens à une époque où, si on prenait le temps de lire toutes les politiques en matière de vie privée qui sont sur notre chemin lorsqu'on achète un livre sur Amazon, après ça, on s'en va à la banque, etc., bien, il y a toutes sortes d'études. Il y en a qui disent que ça nous prendrait 3 semaines par année. Il y en a qui disent que ça nous prendrait 48 heures. En tout cas, bref, on prend pas le temps. On n'a pas le temps. Et c'est de plus en plus complexe. Et j'ai des exemples concrets à ce sujet-là. Donc, dans ma thèse, je me posais ces questions-là et je me disais, est-ce qu'on n'est pas entré dans une quatrième vague, mais on est comme un peu pris avec le cadre légal qu'on avait établi suite à la troisième vague? Alors, c'est un peu ça les défis qu'on a. Est-ce que les politiques en matière de vie privée, j'en rédige, et comme vraiment c'est des documents où l'entreprise s'assure de pouvoir se couvrir si jamais il y a une plainte, si jamais on se dit « Ah, mais je l'ai dit dans ma politique », on sait que de toute façon, personne ne la lit. Alors, ça défie un peu le but ultime là, de ces lois-là. Alors, les défis... Alors ça, c'est l'image que vous voyez, c'est un super utilisateur. En anglais, je l'appelle le « super user ». Et je fais un clin d'œil à un professeur de droit américain qui s'appelle Paul Ohm. J'aime beaucoup ses textes. Il a publié il y a déjà quelques années un article qui s'appelait « The Myth of the Superuser, Fear, Risk and Harm Online ». Puis en gros, il dit « C'est très difficile pour les individus de rester à jour avec les nouvelles technologies et de bien comprendre les produits ». Alors, il y a plein d'exemples. They get privacy defaults wrong. Il divulgue plus de renseignements qu'il devrait le faire. Et en fait, il y avait une histoire il y a quelques années, c'était le propriétaire de Facebook qui clairement n'avait pas compris les nouveaux paramètres de sécurité. Il y avait toutes sortes de ces photos privées qui étaient rendues disponibles. Alors, les journalistes américains ont sauté là-dessus, ont dit « Hey, même le propriétaire de Facebook comprend même pas ses propres modalités. » Alors, imaginez, nous, les utilisateurs. Il y a aussi des études qui démontrent que même des utilisateurs avertis auront de la difficulté à suivre qu'est-ce qui s'en vient. Donc, aux États-Unis, à l'Université de Carnegie Mellon, ils ont pris des étudiants d'université, donc quand même des gens allumés, ils sont en train de faire des études, etc., une clientèle jeune, donc qui ont des outils mobiles, qui sont habitués à downloader des applications, etc. Ils les ont assis dans une salle, ils leur ont donné une demi-journée de formation sur des outils que ces utilisateurs-là pourraient utiliser afin de contrôler le type de publicité comportementale qu'il y aura en ligne. Donc, publicité comportementale, on s'en va en ligne, on va voir un autre site, le site qu'on va visiter a parlé à l'autre site, donc la publicité qu'on voit va refléter un peu nos habitudes et les sites qu'on a visités en ligne. Alors, c'était fait vraiment pour eux, pour s'assurer qu'ils puissent avoir un meilleur contrôle en ligne. Et puis, leur conclusion, c'était « Even with better education, and better user interfaces, it's not clear whether users are capable of making informed choices about trackers. » Donc, c'est un peu déprimant. C'est une étude qui date d'il y a 2 ans, mais elle est toujours pertinente parce que, comme je vous dis, avec les technologies en plus qui s'en viennent, ça va être de plus en plus compliqué à suivre. Et je fais un petit clin d'œil à une décision récente de la Cour suprême. Et je pense qu'il y a des analogies définitivement à faire avec le domaine, avec les innovations technologiques et les enjeux en matière de vie privée. Donc, c'est Monsieur Jean-Marc Richard qui reçoit, tu sais, les espèces d'annonces de Times où vous avez gagné 1 million. Évidemment, on sait qu'on n'a pas vraiment gagné 1 million. Puis là, we read the fine print. Puis, bon, c'est juste une invitation à soumettre notre nom, faire passer nos concours pour peut-être gagner quelque chose. Bon, mais lui, c'était ça, la publicité. Puis lui, il pensait sincèrement qu'il avait gagné. Bon. on ne le jugera pas. Et tout ça pour dire qu'il a poursuivi, il a dit, mais moi j'étais persuadée que j'avais gagné, j'ai subi un certain préjudice, et puis ça s'est rendu en cour suprême. La Cour suprême a dit, lorsqu'on essaie de déterminer là, si une publicité est trompeuse, ben le test, c'est pas une personne avertie, c'est pas du tout ça, c'est vraiment « an ordinary hurried purchaser, relatively unsophisticated, and not particularly experienced at detecting the falsehoods or subtleties found in commercial representations ». On applique ça au contexte des nouvelles technologies en matière de vie privée, politique en matière de vie privée, modalité d'utilisation sur le web. Ça fait mal, ça nous fait mal, ces décisions-là. Hein, il faut vraiment prendre l'utilisateur, là, vraiment ignorant. Dans certains cas aussi, il y a des consentements qui sont donnés en ligne et puis il y a des utilisations qui vont déranger. Puis cette histoire-là, j'ai trouvé intéressante, c'est arrivé à l'été 2014, donc ça fait un petit peu plus qu'un an. Donc, Facebook s'est dit, je vais faire une expérience avec mes utilisateurs. Donc, ce qu'ils ont fait, il y avait des théories qui étaient lancées, entre autres en Europe, ils disaient, apparemment, évidemment, quand je ne sais pas si beaucoup de vous sont sur Facebook, mais on va sur Facebook pour on a les nouvelles de nos amis. Des gens mettent des bonnes nouvelles, certaines personnes vont mettre des mauvaises nouvelles, mais on voit un peu qu'est-ce que nos amis Facebook veulent bien partager avec nous. Alors, il y avait une théorie selon laquelle lorsqu'on est sur Facebook, on a plein de messages positifs, eh bien, on devient envieux. Alors, ça nous déprime, on devient envieux. Et Facebook disait, je suis pas certain que c'est le cas, peut-être c'est pas le cas, j'ai envie de tester cette théorie-là. Alors, ce qu'ils ont fait, ils nous ont manipulés jusqu'à un certain point. Ils ont pris un outil pour aller filtrer le genre de messages qu'on avait. Donc, pour un certain groupe d'utilisateurs, ils filtraient, par exemple, les mots, là, « bonne nouvelle »,« good news »,« so happy », tu sais, ce genre de messages-là. Et puis, quand la personne arrivait sur Facebook, c'était tous des messages super positifs. Puis, il y avait un autre groupe qui recevait des messages négatifs, très déçus, tatati, etc. Puis, c'est le logiciel qui contrôlait ça. Et ce qu'ils réalisaient, ils disaient non, c'est pas vrai que les gens sont envieux. En fait, ils sont contaminés par le message de leurs amis. Alors, les gens qui voyaient des messages positifs mettaient plus de contenu positif et vice-versa. Bon, évidemment, la méthodologie a été attaquée. On a dit, c'est pas à cause que les gens mettent des messages positifs qui sont nécessairement affectés positivement. Bon, bref, on pourrait... Mais ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs étaient furieux. Ils ont dit, mais de quel droit est-ce que vous pouvez nous contrôler comme ça et nous utiliser pour des expériences? Alors, Facebook de répondre, mais vous avez signé mes modalités d'utilisation, vous avez signé mon entente, vous avez bien lu ma politique en matière de vie privée et j'ai droit d'utiliser vos données à des fins de recherche. Alors là, tu as vu les professeurs en droit américain qui ont cherché un angle, ils ont dit, ah, je pense que peut-être que c'est des recherches avec des humains qui dans certains états, on a besoin d'une autorisation, d'un certain... En tout cas, bref, on a essayé de trouver des angles pour attaquer ça parce que ça dérangeait. Donc, le consentement, jusqu'où ça nous mène, il y a plein de défis. Une autre décision que je trouve hyper intéressante, bon, évidemment, dans une société démocratique, les dossiers de cour, les décisions sont publiquement disponibles pour que ceux qui veulent bien les consulter puissent le faire. Mais dans le contexte du web, c'est clair que le portrait change, dans le sens où c'est une chose d'aller au palais de justice, faire une recherche, trouver une décision parce qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche puis on a besoin de cette décision-là, versus on cherche le nom d'un individu sur le web et puis on a toutes les décisions qui lui réfèrent. Alors, de la façon que ça fonctionne, Canly, ils ont le site web en ligne, les décisions sont mises en ligne, mais elles ne sont pas indexées par Google. Donc, si vous cherchez Héloïse Graton dans Canly, il y a peut-être des décisions à mon sujet, mais si vous cherchez Héloïse Graton sur le web, il n'y aura pas ces décisions-là qui vont être indexées. Alors, il y a une compagnie roumaine qui s'est dit, il y a de l'argent à faire là. Ils ont pris toutes les décisions sur Canly, ils ont mis sur le web. Et puis là, ils attendaient. Alors, il y a plusieurs Canadiens qui ont réagi en disant, excusez-moi, quand on cherche mon nom, là, on a toutes mes procédures de divorce. Avec mon salaire, mon état de santé, il y en avait une autre, c'était un conflit avec son employeur, il y avait une évaluation psychiatrique. Alors là, c'est comme disponible sur le web comme ça. Alors, la compagnie disait, il n'y a pas de problème, on peut l'enlever, mais vous allez devoir payer. Si vous voulez qu'on l'enlève rapidement, ça coûte un petit peu plus cher. C'est une forme d'extorsion. Alors, encore une fois, le consentement, est-ce qu'on a le droit de consentir à ce que ce genre de document-là se retrouve pas sur le web? Bien sûr que non, mais c'est clair que avec les technologies du web, un document qui doit, de par sa nature, être publiquement accessible est davantage accessible et ça change un peu le risque. Et il faut se poser des questions. Est-ce qu'on veut évidemment que toutes les décisions se retrouvent comme ça indexées? C'est des questions qu'il faut se poser. Un autre point que je voulais faire, c'est que des fois, les utilisateurs sont très insultés par une nouvelle technologie. Et je m'embête tranquillement vers mon prochain point. Ils sont insultés par certaines technologies. Ils trouvent ça intrusif, ça les dérange. Et puis, au fil du temps, ils vont changer d'idée. Alors, c'est un peu ça, la réalité. Vous me ferez signe, parce que j'ai pas de... OK, mais je sais pas où est-ce que je suis rendue, puis je pourrais parler vraiment longtemps, fait que vous me ferez signe quand il y a un petit 10 minutes. Parfait. Alors, je vous donne un exemple au niveau d'un produit. Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Facebook, je pense que c'était en 2007, ils ont changé le produit. Donc, à l'origine, c'était, on arrivait sur Facebook, on avait notre profil. Puis, si on voulait aller voir le profil des gens, mais il fallait aller physiquement sur le profil des gens, voir s'ils avaient mis des nouvelles ou ils avaient mis certaines informations en ligne. Et puis là, soudainement, ils ont changé ça. Quand on arrive sur le site, on tombe pas sur notre profil, on tombe sur les nouvelles, donc le fil d'actualité qui regroupe toutes les choses que les gens ont mis en ligne. Les gens étaient furieux. Ils disaient, je vais laisser Facebook, c'est pas ça que je veux. J'aimais ça, arriver sur mon profil, puis aller voir le profil de mes amis. Là, j'ai comme toutes des nouvelles comme ça qui m'arrivent. Puis là, au fil des semaines, c'était comme, une telle a fait ça. Et pensez-y, Facebook ne serait pas ce qu'il est comme produit si il n'y avait pas cette espèce de fil d'actualité automatique. C'est ça la valeur de Facebook. Sincèrement, aller voir les profils des gens, c'est moins pertinent. C'est intéressant de voir le ton, la tendance. T'sais, juste ce vendredi passé, il y avait un partage d'informations. C'est ça la valeur du produit. Alors, des fois, on est offusqué, on trouve ça intrusif, on est dérangé par un nouveau produit, mais finalement, on se réajuste. Alors, j'avais une citation là-dessus. Today's privacy crisis is a function of innovation that happens too quickly. Given the accelerating pace of new information technology introductions, new uses of information often appear suddenly, perhaps overnight. Et j'aime cette phrase-là. Still, after the initial panic, we almost always embrace the service that once violated our visceral sense of privacy. Donc, c'est un peu ça qu'il faut garder en tête. Et je vais vous donner, je vais vous expliquer les enjeux en lien avec cette réalité-là. Et donc, je vais vous parler des normes sociales qui évoluent. Donc, en gros, un gros enjeu qu'on a avec les lois en matière de protection de vie privée, c'est que il y a des nouveautés technologiques et on n'a pas, ça arrive trop rapidement. On n'a pas le temps, type de société, de se réajuster. Et il y a toutes sortes de normes sociales en matière de vie privée et on les vit. Elles font partie de notre vie et c'est inconscient. Donc, je vais vous donner des exemples. Dans un ascenseur, on arrive dans un ascenseur, on n'est pas face à face comme ça, on se garde une petite distance, on se laisse un peu d'espace. Puis, remarquez, dès que quelqu'un sort de l'ascenseur, on se réajuste. C'est naturel, ça fait partie de nous, on se pose pas de questions. Au niveau des technologies, alors je vous ai parlé au début le premier concept de vie privée, c'était dans un contexte où il y avait des caméras Kodak. Donc à ce moment-là, on a conceptualisé la vie privée, puis on a commencé à dire, vous pouvez pas prendre des photos comme ça, puis on a adressé ce problème-là à ce moment-là parce que justement c'était une nouveauté technologique, la norme sociale n'étant pas à place. Puis après ça, on a eu comme une pause. Il n'y a pas eu de gros enjeux avec les caméras. Bon, évidemment, les histoires de paparazzi. Mais au-delà de ça, pas eu d'enjeux jusqu'à les téléphones iPhones. Puis évidemment, les Google Glass. Les téléphones iPhones qui ont des petites caméras à l'intérieur, vous remarquerez dans les vestiaires, des fois on voit des affiches, ne pas utiliser vos téléphones avec des caméras dans les vestiaires. C'est évident, mais c'est encore drôle. C'est nouveau que les gens se promènent avec des caméras. Puis les gens manquent de jugement. La norme sociale n'est pas tout à fait en place. C'est comme ça prend quelques années jusqu'à ce que les gens disent, non, c'est clair, on va pas se promener avec la caméra. Des gens se changent, mais c'est un petit peu ça, le point. Puis puis Google, leurs lunettes sont prêtes. Et puis c'est en janvier dernier qu'ils ont dit, on va retarder la distribution. On sait pas trop pourquoi. Et moi, je soupçonne que, un des enjeux, c'est la norme sociale qui est pas en place. D'avoir des gens qui se promènent puis qui enregistrent tout le monde dans l'espace public. Comment on réglemente ça? Comment on adresse ça? Il y a beaucoup d'enjeux. J'ai l'impression que ça fait partie peut-être, je ne suis pas dans le secret des yeux, de la décision peut-être de retarder le produit. Alors, je voulais aussi parler de la personnalisation de certains produits. Donc, pour ceux qui aiment Twilight Zone, il y avait un épisode en 1900 qui a été diffusé en 1960 qui s'appelait The Fever. Puis c'est un couple qui gagne un voyage à Las Vegas. Donc, ils sont super contents. Ils arrivent là. Puis là, la machine à sous, le monsieur joue à la machine à sous. Puis la machine à sous, elle s'adresse à lui par son nom. Alors, lui, il trouve ça intrusif, ça lui fait peur, puis sa femme, elle trouve ça génial. Puis c'est un peu ça, la personnalisation, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont trouver que c'est très positif, ils vont embrasser le changement, et d'autres vont dire, mais comment ça, qu'ils savent ça, j'aime pas ça, quoi d'autre qu'ils savent à mon sujet? Alors, je trouve que ça reflète bien les enjeux. Alors, un autre cas d'étude que je trouve très intéressant pour montrer la norme sociale qui est pas en place, c'est l'histoire impliquant British Airways qui, en 2012, il appelait ça le NOMI Program. Donc, il avait donné des iPads à des milliers d'employés en disant, quand les gens arrivent sur l'avion dans les lounges à l'aéroport, on veut là un accueil hyper personnalisé. Donc, bonjour Madame Gratton, voici votre plat végétarien, inquiétez-vous pas, on fera pas comme la dernière fois, on vous donnera pas un café. Bon, etc. Tu sais, là, on connaît les plaintes des clients, leurs préférences, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, la fréquence de leur voyage, on les connaît. Donc, tout le monde a un iPad avec la photo puis toutes les informations. Et puis, les gens ont trouvé ça vraiment intrusif, ils ont trouvé ça creepy. Et je me dis, c'est tellement un bon exemple parce que dans 10 ans ou dans 20 ans, on s'en reparlera. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont arriver à l'aéroport, qui vont arriver sur un avion British Airways, puis ils vont se faire traiter comme n'importe qui, puis ils vont se dire, mais vous ne savez pas qui je suis avec tout l'argent que je dépense toujours ici, avec tous les outils technologiques que vous avez, vous ne savez pas encore que je mange un plat végétarien. T'sais, donc, bref, la norme va évoluer. Il y a beaucoup de technologies, en fait, j'en ai nommé quelques-unes, là, qui affectent un peu ou qui ont un impact sur la norme sociale qui n'est pas tout à fait en place. Donc, j'ai parlé du code British Airways, mais je pourrais vous parler de d'autres modèles d'affaires. Et un problème aussi qu'on voit dans certains cas, c'est tous les outils de type analytics qui permettent de faire des prédictions et d'offrir la publicité très ciblée. Puis on l'avait vu, il y avait une histoire il y a quelques années qui circulait, puis c'était c'était Target qui avait un outil tellement précis qui était arrivé à prédire qu'une jeune adolescente qui avait acheté des vitamines, puis deux semaines après une certaine crème, était sûrement enceinte selon leur petit logiciel, puis sa date prévue d'accouchement, c'était sûrement ça, donc il a commencé à lui envoyer de la publicité ciblant les femmes enceintes, les bébés, puis son père est tombé là-dessus, il était scandalisé, ils ont dit, mais est-ce que Target essaie de convaincre ma jeune adolescente de tomber enceinte? Et puis là, Target ne savait pas trop quoi dire. Puis finalement, il a réalisé que oui, sa jeune fille était enceinte. Donc, et je vous dis que les compagnies sont rendues là. Alors, j'avise les compagnies qui ont des programmes de loyauté, qui sont des compagnies d'assurance qui me disent, ça fait 2-3 ans qu'on collecte des données massives du big data. Là, on veut les utiliser. Comment on peut le faire? Puis là, c'est comme, on a probablement un consentement quelque part par l'entremise de la politique en matière de vie privée. On a collecté des données qui découlent de l'utilisation de nos produits. Tout est légitime. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, ils me racontent ce qu'ils veulent faire, mais je dis non, je pense pas que ça va passer parce que l'individu ne réalise pas que vous avez ces données-là et qu'elles sont compilées. Alors, c'est un peu ça, souvent, le genre de conseil que je donne. C'est vraiment, c'est plus que le consentement est valide, allez-y. C'est non, on n'est pas rendu là et ça va déranger. Puis, un autre exemple aussi dont je pourrais vous parler, c'est puis vous l'avez peut-être vu dans les médias, c'est une histoire, le programme de publicité ciblée de Bell. Donc, à l'automne 2013, Bell envoie un avis à tous ses membres en disant à partir de telle date, donc c'était comme un genre de 30 jours, 60 jours, je vais commencer à utiliser certains renseignements pour vous faire parvenir la publicité ciblée. Donc, vos utilisations en ligne, l'utilisation que vous faites de votre téléphone, j'ai déjà de toute façon ces renseignements-là. Si vous n'êtes pas d'accord, mais vous retirez de la publicité ciblée, puis ça finit là. Et j'avisais des compétiteurs qui me contactent, qui me disent « Hey, nous aussi, on peut-tu faire ça? » Je dis « Mais je pense pas que ça va passer, mais ça va passer un jour, ça va peut-être passer dans 5 ans, dans 10 ans, mais lorsqu'on parle de données de localisation, site web visité, puis là, on fait une fusion de notre vie physique avec le web, genre, je pense que on n'est pas rendu là à titre de consommateur. Puis effectivement, les groupes de consommation ont réagi négativement, mais tout est une question de timing. Puis en fait, la loi est très vague sur la notion de consentement, surtout fédérale. On dit Dans le type de consentement à obtenir, il faut tenir compte de l'attente raisonnable de l'utilisateur. Mais c'est quoi? À quoi on réfère exactement? Puis c'est quelque chose qui évolue. Dans le contexte de Bell, le commissariat à la vie privée qui a démarré une enquête a dit, mais dans ce contexte-là, on paye pour le service, la compagnie en télécom a déjà accès à beaucoup de nos renseignements intimes, donc je pense qu'il aurait fallu obtenir un consentement de type opt-in. Mais on leur pose 2-3 questions, on enlève 2-3 éléments, puis ils savent pas trop. Je veux dire, puis la même situation dans 10 ans, peut-être, ça aurait passé comme dans du verre. Un exemple aussi que je trouve intéressant, c'est une étude qui date déjà de 2 ans, mais c'est sur l'écoute sociale. En anglais, on dit « social listening ». Donc, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que les compagnies écoutent ce qui se passe sur les médias sociaux. Donc, plus que mettre une petite veille là, sur ce qui est dit en ligne lorsqu'ils sont mentionnés, par exemple, ils sont carrément sur Twitter, puis ils voient si, par exemple, le nom de leur compagnie apparaît, ils vont voir qu'est-ce qui est dit. Donc, ils savent tout ce qui est dit à leur sujet. Il y a des gens qui sont dédiés, des commerces au détail. Là, je dis, des fois, ils ont ces 2-3 personnes, ils sont assis, puis ils regardent des écrans. Puis là, le gros débat, c'est est-ce que si je vois quelqu'un qui me critique, est-ce que j'ai le droit de m'interjecter dans la conversation puis dire, on voit que vous êtes pas content, est-ce qu'on peut vous demander de contacter notre service à la clientèle, est-ce qu'on peut essayer de régler le problème? Alors, ils ont fait une étude pour savoir, est-ce que ça va déranger, est-ce que les gens vont considérer que c'est intrusif, ou est-ce qu'ils vont apprécier ce genre d'initiative-là, compte tenu qu'ils sont sur Twitter, puis normalement, c'est des messages qui sont publiquement disponibles. Et là, vous avez les statistiques, ça va dans les deux sens. Donc, 32% n'étaient même pas au courant que les compagnies écoutaient. Puis là, tu as 50% qui disaient « J'aimerais ça pouvoir parler d'eux sur Twitter, mais je veux pas qu'ils m'écoutent. Okay, » Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. 43% disaient « Je trouve qu'ils n'ont pas d'affaire à m'écouter, ça porte atteinte à ma vie privée. » OK, mais ils mettent des commentaires publics, donc. 48% disent « C'est correct qu'ils m'écoutent, mais seulement s'ils vont utiliser l'information pour améliorer leurs produits. » OK. 58% disent « C'est correct de répondre aux plaintes en ligne. » Puis 64 dit « Non, je veux pas que vous vous interjectiez dans ma conversation. Seulement si je vous parle ou je vous mentionne, là, peut-être vous pouvez me répondre. » Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, je veux dire, alors, quand on est une compagnie, est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on attend? Alors, c'est un peu ça. Donc, l'histoire de Bell, c'était le premier à lancer un genre de programme de publicité ciblée. Et évidemment, ça refroidit. Tout le monde attend. On va attendre que les autres le fassent. Mais c'est un peu ça. Hein? C'est tout le temps les premiers, vraiment, qui vont un peu pousser là, la norme, si je peux dire ça. Donc, c'est quoi le lien entre la partie 1, où est-ce que je parlais de consentement et de transparence, de politique en matière de vie privée, et la partie 2, lorsque je parlais de normes sociales, c'est quoi le lien? C'est que s'il n'y a pas de normes sociales en place, ça sert à rien d'être transparent et d'obtenir un consentement, parce qu'il n'y a aucune valeur. Si la norme sociale n'est pas là, on peut être hyper transparent dans la politique en matière de vie privée, les gens vont quand même réagir négativement. Le consentement sera mis de côté, on trouvera un angle, comme on l'a vu dans certaines décisions. Donc, je pense qu'il faut parler de la norme sociale, c'est très important si on veut bien arriver à cibler et à faire évoluer ces lois-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Est-ce qu'on a besoin de nouvelles lois? Est-ce qu'on veut... un petit clin d'œil à notre cher doyen. Est-ce qu'on veut changer la loi, modifier la loi, préciser la loi? Absolument pas. Et d'ailleurs, je dirais, il y a une revue de la loi fédérale, une révision parlementaire qui a lieu cet hiver. Je vais être impliquée. Au Québec aussi, on est en train de revoir la loi. On m'a demandé les commentaires. Alors, je suis là-dedans. Et souvent, ce que je dis, c'est non, on ne veut pas amender la loi parce qu'on veut que la loi soit... On a besoin que ça soit relativement flexible. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient. Il va falloir se réajuster. Puis, on ne veut pas devoir se réajuster à chaque 6 mois. Donc, je pense qu'on touche à la loi le moins possible. Et d'ailleurs, même si on modifiait la loi, j'aime bien ces deux auteurs-là qui disaient, ben, alors on fait quoi quand la norme sociale n'est pas en place? Comment on amende la loi? On se base sur quoi? Sur les attentes des individus qui vont changer au fil des prochains jours, des prochaines semaines? Est-ce qu'on va regarder les meilleures pratiques d'affaires? On va regarder qu'est-ce que les autres font? On va se fier à ça? Sur quoi on se fie? Alors, je pense qu'il faut garder un cadre légal flexible et peut-être aller pallier avec des guides, des lignes directrices. Puis c'est ça, d'ailleurs, qu'on fait au fédéral. On a émis, il y a 2 ans, des lignes directrices en matière de publicité comportementale en disant ça, c'est acceptable, ça, c'est pas acceptable. Et je vous dirais, elles sont déjà ils ne sont pas à jour en ce moment. Il faudrait vraiment qu'ils retournent. Donc, ça évolue tellement rapidement que je pense qu'on n'aura pas le choix d'évoluer avec des guides et des conseils un petit peu à l'extérieur du cadre légal. Donc, je vous laisse avec... Est-ce que c'est ma dernière ACETA? Je crois que oui. Je vous laisse avec un petit résumé, une petite citation que je trouve intéressante. The success of the Internet has in large part been driven by the freedom to experiment with different business models, the best of which have survived and thrived, even if in the face of initial unfamiliarity and unease about the impact on consumers. Donc, ce que je dis, c'est gardons une loi flexible et gardons à l'œil l'évolution de la norme sociale et le pouls de la société. Il y a souvent des consultations qui sont faites. Comment vous sentez? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui vous dérange? Il faut écouter ces consultations-là et parce qu'ils sont très importants dans le cadre de l'évolution de ces lois-là au regard des nouveautés technologiques. Donc, merci.
Nous garderons les questions pour la fin de toutes les présentations où nos conférencières viendront répondre aux questions du parterre. On ne pouvait pas trouver une meilleure transition que ta conclusion, Héloïse, pour introduire la présentation d'Alexandra Ben-Samoun qui va nous parler de la République numérique et des nouvelles expériences de processus législatifs qui ont eu lieu en France très récemment et qui sont encore au stade de l'expérimentation. Un mot, bien entendu, pour vous dire à quel point nous sommes heureux d'avoir nos collègues français. On va les écouter avec une oreille toute bienveillante avec les événements de vendredi qui affectent et vont changer nos vies et ceux de nos enfants. Sans plus attendre, professeur Ben-Samoun.
Merci, Pierre-Emmanuel. Alors, d'abord, merci à vous aussi, Maître Bélanger, parce que vos mots nous touchent beaucoup. On est arrivé avec mon collègue samedi dans la journée. C'était très dur de quitter Paris vendredi soir. Enfin, moi, je passais la nuit devant la télévision et je me suis demandé, est-ce que je laisse mes enfants? Est-ce que je laisse mon mari? Est-ce que je viens? Il y a un collègue de l'Université de Laval qui m'a écrit parce que je dois y aller aussi et qui m'a dit si tu dois annuler, je comprends. Et puis je lui ai dit non, on va venir. Et puis j'ai parlé avec mon collègue. Mon collègue, il avait l'air sûr, il n'avait pas l'air de douter. Alors je me suis dit, il n'y a peut-être que moi qui doute. Et puis Georges Azaria me dit bravo, t'es courageuse. Et je lui ai dit non, je ne suis pas courageuse parce que je suis morte de trouille en fait. J'ai très peur de laisser mes enfants alors que ça n'a aucun sens parce que ce qu'ils feront avec moi, c'est les mêmes choses que ce qu'ils feront sans moi, c'est-à-dire qu'ils sont à l'école. Je suis pas courageuse. Aujourd'hui, le peuple français, il est dans la commémoration, dans le deuil et dans la résilience. Et la nuit même où ça s'est passé, on a reçu un message de notre président d'université qui nous disait « On est des universitaires, on va continuer à avancer, on va continuer à transmettre le savoir. On est tous en deuil, mais on continuera nos activités parce que on nous fera pas baisser la tête. » Alors voilà, merci pour votre accueil. Merci Pierre-Emmanuel pour ton invitation. Ça me fait très plaisir de venir ici, comme ça me fait très plaisir quand tu viens à Paris. Donc c'est vraiment une relation qui me tient à cœur. Merci à ma guilde de me recevoir, mais merci aussi à tous les Québécois, parce que vraiment on a été très touchés. Avec mon collègue, on était à la manifestation en soutien à Montréal et... Voilà, c'était vraiment beau, c'était vraiment émouvant. On s'est senti comme chez nous, un peu comme si on nous entendait et qu'on entendait notre tristesse. Alors ça fait du bien. Merci beaucoup pour tout ça. Alors je suis venue vous parler de choses peut-être très différentes, mais du coup je sais même pas si on va en parler très longtemps de tout ça avec les événements. Mais en tout cas, Peut-être vous en avez entendu parler, la France s'est lancée un grand défi dernièrement. Elle présente un projet de loi dont l'ambition affichée fait rêver tout le monde, puisque le projet, c'est créer une république numérique. Le projet de loi est sur la république numérique. Une république 2.0, donc, et pour ce faire, elle utilise les outils 2.0. Au stade même de l'écriture de la loi, on va utiliser le numérique. C'est une loi, donc, par le numérique, qui est réalisée grâce à l'outil numérique et qui est sur le numérique. Et en plus de ça, une loi qui nous promet d'entraîner dans son sillon la République française tout entière. Alors vous imaginez le programme, vous imaginez le titre. Si les mots ont un sens, si les symboles existent encore, on s'attend peut-être à une sorte d'habeas corpus numérique, une sorte de recueil des droits fondamentaux appliqués au numérique, ou en tout cas des éléments qui impliquent au moins toutes nos institutions, parce que c'est la République qu'on convoque sur l'autel de ce texte. Et d'ailleurs, c'est peut-être nécessaire. Peut-être que dès lors qu'on parle de numérique, eh bien, il faut revoir nos textes, il faut réfléchir différemment. Le Conseil d'État, dans son rapport annuel de l'année dernière, nous le suggère, puisqu'il a intitulé son rapport « Numérique et droits fondamentaux ». Comme si peut-être bien le numérique impliquait de revoir notre manière d'être, notre manière de penser aussi sans doute. Bon, d'ailleurs peut-être c'est pour ça que vous m'invitez aujourd'hui, pour que bien je vous fasse part du contenu de ce titre prometteur. Vous connaissez, nous les Français, on aime être flattés, alors on aime un peu servir d'exemple, défricher un petit peu des terrains vierges. On a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui a essaimé. On a le Code civil qui a égrené dans le monde entier. Alors de tout ça, on est très fiers. On l'enseigne à nos étudiants avec délice. Regardez d'ailleurs l'image. Hein, c'est cette image qui est ici, elle n'est pas du tout de moi. C'est l'image symbole officiel de ce projet de loi, c'est-à-dire que vous le trouvez sur le site ministériel. Regardez donc cette Marianne numérique conquérante qui embrasse le monde, hein, qui conquiert, vous avez vu, le monde. C'est absolument incroyable. Je trouve d'ailleurs l'image très belle. Après, malheureusement, je vais devoir redescendre un peu sur terre et avouer que ici on a fait beaucoup de bruit et qu'on a utilisé beaucoup de mots pour pas grand chose, sans doute. En tout cas, je vous laisse en juger, tant sur la méthode qu'on a utilisée pour ce texte que sur son contenu lui-même. Le projet ressemble davantage à une pétition de principe. Peut-être même qu'il est un peu caricatural de ce point de vue. Il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas beaucoup de musique en réalité. Et ce qui signifie pas qu'on peut rien en tirer. Hein, on en tirera quand même des éléments, mais on s'attendait pas à ça quand même. Alors, ce projet de loi sur la République numérique ne peut pas se comprendre d'abord sans envisager le contexte dans lequel il a été proposé. Si je devais le résumer, je vous dirais que on a longtemps hésité, que les domaines s'enchevêtrent les uns avec les autres, qu'il y a clairement une lutte de pouvoir autour de ce texte, et qu'en plus la hiérarchie des normes vient contrarier toutes ces belles intentions. Pas difficile d'entendre qu'en réalité ce texte, si c'est tout de suite, il a tout de suite été pris dans un espèce de marasme, mais qu'il y avait beaucoup trop d'obstacles pour qu'en fait on fasse une véritable république numérique grâce à ce texte. Alors, au départ, le message est très ambitieux. Ce projet, il est porté par Axelle Lemaire, qui est notre secrétaire d'État en charge du numérique. Et elle nous a clairement annoncé, d'ailleurs il y a un petit discours de présentation de son texte qui est disponible en ligne, et elle annonce que ce projet pose les fondements d'une ambition économique et d'un projet de société à l'ère numérique. Vous voyez que je vous ai mis un petit oyez, oyez, parce qu'on a vraiment envie de quand on nous dit ça, on se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comment elle va faire pour dérouler cette ambition économique, ce projet de société? Eh bien, trois directions sont annoncées. La liberté accrue pour la circulation des données et du savoir, l'égalité de droit pour les usagers du net et la fraternité pour une société numérique ouverte à tous. Et vous reconnaissez bien sûr ici la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, complétée pour l'occasion, afin de s'adapter quand même aux problématiques du numérique, donc complétée de quelques petits éléments, mais principalement, on est dans les valeurs françaises à tout craint. Et j'ai envie d'ajouter, qui dit mieux, qui est contre cette proposition? Évidemment, on comprend, au vu du message, on comprend mieux l'intitulé, vous voyez, ça correspond assez bien. L'intitulé, il est aussi ambitieux que le programme à l'origine. Le problème, c'est ce qu'en réalité le texte va nous proposer. Et ce contenu, eh bien, il rend l'intitulé comme le message tout à fait déceptif. C'est pas vraiment une loi sur la République numérique qui nous est proposée, c'est une loi sur le numérique, et encore, c'est une loi sur certains points qui touchent au numérique. C'est pas du tout une loi transversale sur tout le numérique, et c'est encore moins une loi sur la République numérique, parce que c'est pas du tout une loi qui touche à nos institutions en elles-mêmes. Bon, donc un message ambitieux, et finalement... Déjà, l'ambition nous fait douter de la réalité. Pourquoi ce décalage, en fait? Pourquoi on en est arrivé à un tel décalage entre un intitulé de texte absolument formidable, des promesses qui font rêver, et puis, finalement, vous verrez à l'arrivée, d'accord, quelques règles, certaines intéressantes, mais sans doute pas de quoi... s'émouvoir plus que ça. La raison souterraine de ce décalage entre l'annonce et la réalité tient surtout aux luttes de pouvoir et aussi à ce qu'on appelle chez nous la hiérarchie des normes qui s'impose en France, c'est-à-dire qu'en France, les traités sont supérieurs au droit interne et en particulier tout ce qui est normes communautaires, normes européennes, ça s'impose au droit interne. Alors, pour vous expliquer un peu la configuration de ce texte et son contexte humain, c'est un texte qui est porté par Axelle Lemaire, qui est donc secrétaire d'État chargée du numérique, qui est la jeune femme avec les cheveux longs ici, et qui est chargée du numérique auprès du ministre de l'Économie, vous avez peut-être entendu parler, Emmanuel Macron. On en parle beaucoup parce qu'il y a eu une loi Macron qui a fait parler, notamment il a utilisé l'outil du 49-3, l'outil du passage en force devant notre Assemblée, devant notre Parlement, et donc il a fait un petit peu parler de lui. Donc le texte est porté par cette secrétaire d'État qui est rattachée au ministre de l'Économie, Emmanuel Macron. La difficulté ici, c'est qu'il n'y a pas qu'elle qui parle de numérique, il y en a plein d'autres. Les sources du numérique, en fait, deviennent plurielles, elles deviennent transversales. Et c'est pour ça que intituler un texte « République numérique » alors même qu'on maîtrise une toute petite partie du numérique, c'était déjà à l'origine très ambitieux. Tant au niveau horizontal, c'est-à-dire entre les ministres, les secrétaires d'État eux-mêmes, qu'au niveau vertical, entre le texte national et le texte supranational, eh bien, il y a une pluralité qui fait que... En fait, dès le départ, on ne devait pas s'attendre à quelque chose d'aussi exceptionnel que ce qui a été annoncé. Alors, qui parle de ce sujet du numérique? Qui parle finalement de la question dont était chargée à l'origine Axelle Lemaire? Bien d'abord, on a la ministre de la Culture, qui est là, Fleur Pellerin, qui de manière souterraine, plus ou moins avouée, a beaucoup œuvré pour que le projet d'Axel Le Maire ne déborde pas son champ de compétences. Et son champ de compétences, c'est en particulier le droit d'auteur et les droits voisins appliqués au numérique. Donc ça, déjà, on touche pas. Dans, il y a eu des tentatives hein, quand même, parce que en juillet, le premier projet qui n'a jamais eu d'existence officielle, mais qui était un projet, ben voilà, a fait irruption dans la presse. Hein, il est tombé du camion et puis il a été connu. Et Axel Le Maire, évidemment, empiétait très largement sur les compétences du ministère de la Culture et de la Communication, et donc sur les compétences de Fleur Pellerin, sans compter que Fleur Pellerin est dans une situation un petit peu délicate aujourd'hui, puisqu'elle est en train de négocier la réforme de la directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, donc appliquée au numérique. Donc elle n'a pas besoin de quelqu'un qui vient parler de ces questions-là, alors même qu'elle essaye de porter la position française à Bruxelles. Donc évidemment, tout ça a créé quelques petites frictions entre ces deux-là, qui apparemment sont pas encore... petites étincelles qui ne sont pas encore éteintes. Et puis d'autres encore parlent du sujet. Vous avez ici cette personne qui est la secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État et de la simplification. La simplification du droit. Elle est rattachée directement à notre Premier ministre, qui est ici au centre, Manuel Valls. Donc c'est un rattachement direct. Et à la surprise générale, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment, cet été, elle a déposé un projet de loi sur la gratuité des informations du secteur public, qui est un projet qui est en cours de discussion parlementaire et qui réalise, sans grande ambition, hein, il y a 9 articles, la transposition d'une directive européenne qu'on appelle la directive PSI2, pour public sector information, et deux parce qu'en fait c'est une directive qui réforme une première directive qui datait de 2003. On va dire que de manière très schématique dans ce texte, le principe qui est posé, c'est que la réutilisation d'informations qui sont publiques est gratuite. On est quand même proche des questions d'ouverture des données, d'open data, comme on dit, sauf que là, on est plus sur le terrain de la gratuité. Et puis, ce texte pose également des exceptions à cette gratuité qui vont permettre finalement à l'administration de continuer à percevoir des redevances sur les données, sur les informations et les données publiques. Donc, pas grand-chose de nouveau, sauf que quand même, il y a clairement... un rapprochement avec les ambitions de la République numérique. Il y a des règles, d'ailleurs, qui vont devoir s'articuler dans les deux textes. Il y a d'ailleurs un des articles qui a été retiré du texte du projet de loi Valter, puisque, pardon, cette secrétaire d'État s'appelle Clotilde Valter. On a retiré un des textes de son projet en disant « ça, c'est pas pour vous ». Même si c'est en lien avec votre sujet, mais c'est pour la République numérique, donc c'est quelque chose qu'il faudra rajouter dans l'autre projet. Donc on voit bien que les frontières sont un peu étanches. Alors pourquoi elle s'est précipitée comme ça en plein été pour déposer un texte? Parce que la France avait déjà, on s'était fait tirer l'oreille hein, par les autorités européennes. Comme d'habitude, on a un retard de transposition. Donc avant une condamnation, on vous fait signe en disant, là, il faut y aller. Donc voilà, elle a proposé un texte qui est un texte assez sage par rapport à l'ambition première. Autre personne qui prend la parole hein, dans cette conversation un petit peu cacophonique du coup, le ministre de l'économie lui-même. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Axel Le Maire, elle était rattachée directement, était sous l'autorité directe du ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Elle est donc normalement chargée d'un projet de loi sur la République numérique. On peut donc imaginer qu'Emmanuel Macron, du coup, se retire un petit peu sur ce sujet, en tout cas qui lui laisse le champ libre. Et en réalité, il y a quelques jours, il a annoncé dans la presse qu'il reprenait la main sur une grande partie du sujet. Il a annoncé l'intitulé de son projet, son prochain projet de loi. Il n'a pas encore été dévoilé, mais on en connaît le titre. On aime bien les titres, nous les Français. Et puis plus c'est... Plus c'est symbolique et mieux c'est. Alors du coup, lui, il a choisi le vrai symbole. Sa loi va s'appeler « Nouvelles opportunités économiques ». Alors dit comme ça, de dire « Mais où est le symbole ?» Parce qu'en fait, on l'abrège « Noé ». Voilà. Donc c'est le projet de loi Noé et, nous dit-il, le numérique devrait embarquer en bonne place dans son arche pour sauver apparemment l'économie française. Et donc il y aura des dispositions clairement liées au numérique, mais justement peut-être des dispositions qu'on attendait dans la République numérique sur la liberté d'entreprendre dans le secteur du numérique, etc. Donc des choses beaucoup plus générales. Et puis, qui parle encore? Eh bien sûr, l'Union européenne, puisque vous le savez, la France fait partie de l'Union et qu'elle a abandonné donc un certain nombre de ses compétences au profit de l'Union. Tous les domaines dont on a parlé ici sont des domaines de la compétence de l'Union européenne. Et du coup, on peut parler de droit d'auteur et de droit voisin en interne, mais ça relève de la compétence de l'Union européenne et on est en pleine réforme de la directive qui existe sur le sujet. La directive européenne qui existe sur le sujet est en train d'être réformée à Bruxelles. Donc c'est pas la peine de commencer à réfléchir en interne. On attend qu'on nous ordonne en quelque sorte. Pareil sur l'open data. Ce qu'a fait Clotilde Walter, c'est tout simplement transposer la directive PSI 2. Même chose sur les données personnelles. Vous allez voir que le texte République numérique contient un certain nombre de règles sur les données personnelles, mais on peut anticiper l'Europe, pourquoi pas, peut-être qu'on va influencer le monde entier même, mais dès lors que le projet de règlement européen sur les données personnelles qui est en cours depuis déjà un certain nombre de temps et qui a connu quelques accidents de parcours, parce qu'il y a eu un fort lobbying, parce qu'il y a eu entre-temps des décisions de la Cour de justice qui vous ont peut-être marqué. Il y a eu le droit à l'oubli numérique, il y a eu l'invalidation du Safe Harbor, il y a eu beaucoup de choses qui du coup ont interféré. Mais le règlement européen sur les données personnelles, il va intervenir d'ici quelques mois. Donc on peut légiférer sur les données personnelles, sauf que... il ne faut pas être en contrariété avec le projet de règlement et puis on sera sans doute obligé de rectifier le tir à très brève échéance. Il y a aussi d'autres textes européens qui s'intéressent au numérique, très particulièrement ce qu'on appelle le paquet télécom, qui est constitué d'un certain nombre de règles, de directives et de règlements. En particulier, on parlera du principe de neutralité sur le net. C'est en réalité une règle européenne. Donc c'est une règle qui est dans un projet de règlement qui vient d'être adopté en deuxième lecture par le Parlement il y a quelques jours, mais qui est encore en cours de signature. Donc c'est pas quelque chose qui nous appartient. On le met dans un projet de loi, mais il faudra qu'on s'attache à ne pas à être fidèle à la parole européenne. Alors... le sentiment général qui ressort de toutes ces voix, finalement, de ce concert de voix, c'est plutôt une cacophonie parce que c'est pas très orchestré tout ça. On a l'impression que tout le monde parle de manière un peu indépendante, que chacun a son domaine, que personne ne veut lâcher du lest, et puis on s'intéresse pas nécessairement à l'autre de prime abord. On n'essaye pas de faire quelque chose de grande république numérique, justement. La république numérique, elle est juste dans le petit coin, même si Axel Le Maire est formidable, elle a été cantonnée dans un tout petit coin, alors que la république numérique, c'est tous ses acteurs et sans doute plus encore. Cette Cette déception, hein, alors qu'on n'a même pas encore vu le contenu du texte, elle est d'autant plus forte que ce texte, il a été annoncé en grande pompe hein, depuis un certain temps déjà, ça fait 3 ans. 3 ans de musique sans parole. Alors pourquoi 3 ans de musique sans parole ? Parce que ce texte, on a commencé par l'annoncer en octobre 2012. Et c'est Fleur Pellerin qui l'a annoncé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, elle était secrétaire d'État chargée du numérique. Donc elle l'a annoncé en octobre 2012 devant l'Assemblée nationale avec une date. Elle a dit premier projet, le projet de loi, ce sera premier semestre 2013. Et elle l'annonce vraiment de manière assez sûre d'elle, puisqu'elle dit que le gouvernement, je la cite, hein, peut raisonnablement s'engager à présenter au Parlement au cours du premier semestre 2013 un corpus de règles visant à garantir la protection des données personnelles et de la vie privée sur Internet. Vous voyez qu'elle n'est pas sur la République numérique, elle, hein, pour le moment. Mais en tout cas, elle s'intéresse à la question et elle annonce un projet sur ces questions. Et puis, le temps passe, rien ne vient, et en février 2013, le gouvernement Hérault, donc c'est à l'époque le Premier ministre était Jean-Marc Hérault, annonce un projet de loi au plus tard de début 2014. Vient ensuite en juin 2014 le départ de Fleur Pellerin du secrétariat d'État chargé du numérique, et donc l'arrivée d'Axelle Lemaire à ce secrétariat. Celle-ci annonce une présentation du projet de loi devant le Conseil des ministres fin 2014 et un examen par le Parlement très vite, donc au premier semestre 2015. Alors, elle lance sans doute pas tout de suite l'opération, parce qu'il faut quand même qu'elle s'acclimate avec ce nouveau job, en quelque sorte. Elle commence quand même les choses, et en octobre 2014, elle charge le Conseil national du numérique d'un travail sur ce sujet, et on lance une consultation citoyenne. C'est le Conseil national du numérique hein, qui lance cette consultation citoyenne sur le sujet, et ça s'appelle, il y a un site, ça s'appelle contribuer.cnnumérique.fr, et il y a 4000 contributions quand même qui sont faites sur ces sujets-là. En juin 2015, le rapport est remis au Premier ministre, parce que le Conseil national du numérique est un organe en c'est pas vraiment un organe de conseil, c'est un organe de conseil, mais pas juridique, rattaché au Premier ministre. Donc le rapport Ambition numérique est remis au Premier ministre, 400 pages, 70 propositions, une belle couverture médiatique de cette remise du rapport. En juillet 2015, je vous l'ai dit, il y a un premier avant-projet de loi qui tombe du camion, et là, pendant les vacances, Axelle Lemaire se fait tirer les oreilles très fort. Du coup, le 26 septembre 2015, il y a un premier projet de loi République numérique qui est mis en ligne sur un site dédié. Et ce premier projet officiel n'est pas du tout le même que l'avant-projet qui datait du mois de juillet, mais qui n'a pas d'existence officielle. Donc l'honneur est sauf. Du 26 septembre au 18 octobre 2015, Axelle Lemaire a décidé de procéder à une consultation publique, c'est-à-dire que l'avant-projet de loi pour une République numérique a été mis en ligne. Il y a eu un site qui a été fait, qui s'appelle républiquenumérique.fr, et qui est toujours disponible, que vous pouvez toujours aller consulter. Et donc les gens étaient appelés à se prononcer, on verra comment, sur les dispositions, faire des propositions. À l'issue de cette consultation, il y a une mise en ligne du projet, d'un projet bêta, c'est-à-dire un projet qui prend en compte la consultation publique qui a été réalisée, et ce projet, qui est vraiment l'avant-projet de loi, est transmis pour avis au Conseil d'État, ce qui est une procédure classique en France. On nous a annoncé il y a quelques jours une version finale du projet pour être remis au Conseil des ministres en décembre 2015, donc pour être ensuite examiné. Et à partir de mi-janvier 2016, le texte devrait arriver pour un examen au Parlement avec de lecture, enfin, sauf si on est dans une procédure accélérée, mais je sais pas pourquoi il y aurait une procédure accélérée sur ces sujets, mais pourquoi pas, en tout cas, on peut l'imaginer. Cela étant, d'ici là, il y aura peut-être un certain nombre de textes européens qui auront été adoptés ou dévoilés. Et la France a l'obligation, dès lors qu'il y a un texte européen, dans le délai de transposition, l'État membre n'a pas le droit de promulguer des règles qui seraient en contradiction avec le droit européen. Donc dès à présent, si jamais dans le texte il y a des dispositions qui contrarient les textes européens, il faudra de toute façon qu'au niveau du Parlement, il y ait des modifications. Voilà pour le contexte. Vous voyez, on n'est déjà pas très bien parti dès le départ. Et pourtant, encore une fois, l'objectif était assez positif. Surtout, la méthode était très intéressante. Je vous l'ai dit au départ, le projet de loi sur la République numérique, c'est un texte tout numérique. C'est-à-dire qu'on va, pour promouvoir un contenu numérique, utiliser les outils numériques. Comment on va faire ? Bien, je vous l'ai donné un peu dans l'agenda qu'a suivi ce projet. Il va y avoir un site, des consultations par le biais de ce site. On va fabriquer la loi de manière 2.0. Le numérique entre ici, hein, par ce projet dans les sources du droit. On connaît bien le numérique en France, notamment parce qu'on a un service public de l'information, de l'information des sources juridiques et judiciaires, qui s'appelle Légifrance, qui est c'est une obligation, hein, et où vous trouvez tous les textes à jour nécessairement, et où il y a une diffusion également de la jurisprudence sans commentaire, hein, c'est vraiment une diffusion vierge, objective de tous les textes. Mais là, on n'est plus au stade de la diffusion du droit. On est au stade de la création du droit. Donc, on va utiliser l'outil numérique pour fabriquer du droit sur le numérique. Cet objectif, il est clairement déclamé sur le site. On vous parle de co-création de la loi, de co-élaboration, de co-construction, voilà, donc on a beaucoup d'expression qui signifie cette écriture collaborative, nous dit-on, du texte. Cette collaboration, elle se constate à deux niveaux. Vous avez vu sans doute dans l'agenda que je vous ai proposé, il y a eu d'abord le Conseil national du numérique qui a établi un rapport, et pour faire ce rapport, il a fait une consultation citoyenne en ligne. Et puis, au stade de la confection de la loi, ensuite, il y a eu également des consultations en ligne, des réunions publiques, des Fab Labs, un GovCamp aussi. Enfin bon, on a utilisé des mots assez modernes pour faire moderne. Alors, au niveau du Conseil national du numérique, il y a eu des ateliers de travail, des ateliers participatifs. Il y a eu plusieurs milliers de participants quand même. Il y a eu 70 propositions. Je vous l'ai dit, le rapport, il est quand même assez volumineux. Cela étant, c'est pas, il s'appelle Ambition numérique, hein, ce rapport. Donc là encore, les titres sont des symboles chez nous. C'est pas un rapport juridique. C'est un rapport plus sociologique. Il y a d'ailleurs très peu de juristes, hein, au Conseil national du numérique. On va dire que le trait qui caractérise ce rapport, c'est surtout un modèle ouvert qui est très fort, qui est très fortement soutenu. La deuxième phase de cette co-création, donc, c'est au moment de la mise en ligne du texte de base. Le texte de base a été mis en ligne, je vous l'ai dit, en septembre. Il y avait 30 articles répartis en 3 thèmes. La circulation des données et du savoir, la protection de la vie privée en ligne et puis l'accès au numérique. Et chacun était appelé à agir sur ce texte, à avoir une action sur ce texte. C'était le site, très très simplement, hein, s'appelait république-numérique.fr, s'appelle d'ailleurs, et l'ambition affichée, dès lors que vous allez sur la page d'accueil, hein, de ce site, vous voyez écrit, d'ailleurs sur l'image de la Marianne, comme ça, il y a écrit « Écrivons ensemble la loi numérique ». Alors, vous pouviez donc écrire ensemble à la numérique. La méthode était d'ailleurs considérée comme très innovante. Hein. On a eu le sentiment que ça n'existait nulle part ailleurs. L'idée, c'était de proposer un projet de construction collaborative du droit en mettant à contribution non pas des experts, des juristes, mais en mettant à contribution la société civile tout entière et sans limite. Alors pour chaque article, vous aviez donc l'article, une petite explication, et puis vous pouviez voter. Voter sur les propositions, vous voyez, c'est le vote, c'est enfin le résultat du vote, puisque maintenant, comme la consultation est close, vous avez le résultat ici, là, le petit camembert. Donc vous avez le vert quand sont les votes favorables, le rouge défavorable, et puis le orange, vous êtes entre deux. On pouvait donc aussi voter, puis on pouvait aussi donner son avis et développer des arguments pour, des arguments contre, et vous voyez qu'ici, ils sont, vous notez le nombre d'arguments pour, nombre d'arguments contre, et ensuite, vous pouvez aller dérouler, voir les arguments, vous avez même un petit ici pour classer les arguments en fonction de catégorie. Vous pouviez aussi faire des propositions de modification sur le texte lui-même, vous pouviez même proposer des articles nouveaux qui n'étaient pas intégrés dans ce projet. Plein de choses absolument incroyables qui ont été proposées. Et puis, vous aviez une possibilité d'indiquer vos sources, les sources à partir desquelles vous aviez fait ces propositions, si vous en aviez d'ailleurs connaissance. C'est pas évident que la société civile soit au courant. Une fois cette consultation terminée, il y a une synthèse des contributions qui a été faite et qui a été rendue publique et qui est en ligne, donc sur le site République Numérique. Et les propositions qui ont reçu le plus de votes positifs reçoivent une réponse directement de la secrétaire d'État chargée du numérique. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Cette co-création. Alors, on va essayer d'en porter une petite appréciation, d'abord quantitative. Il y a eu 21 330 participants pour cette consultation. Mon collègue qui est très fort en calcul me disait que ça fait 0,03% de la population française. Oui, donc on va dire la représentativité est ailleurs. Hein. Et puis... Si on s'intéresse aussi aux quantités d'un peu plus près, on voit qu'il y a des concentrations qui déforment un peu hein, le prisme et qui déforment aussi le message. Par exemple, la proposition citoyenne la plus populaire, c'est quoi ? 4000 votes pour cette proposition, c'est le e-sport, la reconnaissance du e-sport. C'est quoi le e-sport ? C'est les compétitions de jeux vidéo. Et là, on est un peu loin de l'intérêt général, mais c'est vrai que c'est une vraie... c'est des gens qui sont très actifs, ceux qui font des... Donc c'est pour ça que c'est la proposition la plus populaire. Et alors, l'idée, c'était quoi ? Vous allez me dire, enfin, je suis pas sûre que ce soit judicieux, mais pourquoi pas ? La proposition qui a été faite ici, c'était de sortir les compétitions de jeux vidéo de la réglementation sur les jeux d'argent. Pourquoi ? Pourquoi le jeu vidéo en serait extrait ? Bon, en tout état de cause, la proposition elle-même n'a pas été reprise, mais on retrouve le e-sport dans le projet de loi sur le numérique pour dire on ne reprend pas la proposition, mais on va réfléchir à un statut des compétitions de jeux vidéo. C'est déjà ça. Et puis, on a aussi plus de 6000 votes pour trois propositions, alors plus ou moins fortes, mais qui sont assez proches et qui sont liées à la promotion des logiciels libres dans l'administration. Et ici, en tout, ça totalise plus de 6000 votes, mais certains voulaient seulement promouvoir le logiciel libre, d'autres imposer le logiciel libre. Donc, il y avait des gradations. Mais en tout cas, il y a eu 6000 votes sur ce sujet, comme quoi les citoyens sont comptables des deniers publics hein, et qu'ils souhaitent que l'administration ne paye pas de licence, mais utilise des logiciels libres. Pourquoi pas ? Ensuite, quand on regarde qui a... toujours quantitativement, les gens qui sont beaucoup intervenus, alors on trouve un Vincent Réverdi, qui est chercheur en astrophysique, qui habite pas en France d'ailleurs, mais qui est attaché à la France. Et lui, il a fait 1500 propositions. Voilà. Et je pense qu'il y avait une compétition entre Vincent Reverdy et Jeanne Varasco, puisque elle a fait 1200 propositions. Donc ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup de temps aussi à accorder à cette plateforme République numérique. Alors, en dépit du nombre de contributions, il y en a eu 8500 quand même, en dépit du nombre de votes, il y a eu beaucoup plus de votes, il y a eu 147 000 votes, mais vous savez, c'est facile de voter, hein, c'est comme si un peu vous likez, quoi. Hop, boum, c'est bien, vous avez voté, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin que ce vote. Donc, il y a quand même 147 000 votes, mais seulement, hein, toujours avec 21 000 participants, hein, donc avec les gens votés, oui, non, en dépit de ces chiffres qui peuvent paraître importants et qui, rapportés quand même à la population française, sont absolument insignifiants, mais il n'y a eu que 5 nouveaux articles issus de toute cette consultation, de tout ce travail participatif. Ben, on a tiré 5 articles nouveaux d'importance très inégale, hein, puisque je vous l'ai dit, pour le e-sport, c'est pas du tout on reprend la proposition, c'est juste ok, on va réfléchir au e-sport. Donc évidemment, ça... C'est pas exactement ce qui était demandé. Si on fait une appréciation maintenant plus qualitative, d'abord sur les profils des contributeurs. Je vous l'ai dit, il y a pas mal de particuliers, il y a beaucoup de particuliers qui ont fait des propositions. Beaucoup de propositions, mais pas très suivies pour ces particuliers. Et puis, il y a des associations qui ont fait des propositions qui, elles, ont été très suivies. Une association comme la Quadrature du Net. Je ne sais pas si ici vous connaissez, c'est une association qui est très marquée, hein, la Quadrature du Net, pro-libéralisation des données, ouverture des données, etc. Et elle a fait des propositions qui sont bien rédigées, hein, plutôt bien rédigées. Et chacune de ces propositions, 9 propositions en tout, ont récolté entre 1500 et 2000 votes. Donc là, on voit qu'il y avait une mobilisation et on peut voir que 98% des gens qui ont voté pour les propositions de la Quadrature du Net, ils sont favorables. C'est presque le plébiscite. Qui d'autre comme contributeur? On s'attend peut-être à voir sur un projet de loi les professions juridiques et judiciaires, des représentants peut-être. Alors peut-être pas des représentants de magistrats, mais des représentants des praticiens du droit. Oui, alors l'Ordre des avocats de Paris, qui est une concentration d'avocats, hein, à Paris, il y a la moitié des avocats de France qui sont rattachés à ce barreau, 2 propositions qui ont recueilli 10 de votes. Voilà. Il y a aussi le Conseil supérieur du notariat, qui a fait 1 proposition et qui a recueilli moins de 10 votes. Pourtant, il serait de bon sens, hein, peut-être, d'entendre ce qu'ont à dire les juristes sur un texte de droit. Peut-être qu'ils ont des choses à dire sur ce là-dessus. Mais enfin, à la fois, ils ont peu parlé. Donc, mais je m'inclus. Hein, je n'ai pas du tout participé. Donc, je m'inclus dans ce défaut de participation. En même temps, je suis sûre que j'aurais pas eu beaucoup de voix, donc j'imagine que la protection des données personnelles, etc., c'est pas quelque chose qui anime tout le monde, donc je suis pas sûre que j'aurais eu beaucoup de succès. Et puis, on se dit également, toutes ces règles du numérique, elles intéressent les grands acteurs du numérique, les GAFA, comme on dit. Rien. Ils sont silencieux. Moi, je pense que c'était pas la peine qu'ils se montrent, parce que sinon, ça aurait fait polémique. Donc, je pense qu'ils ont pas souhaité intervenir. Ensuite, sur la qualité des propositions. Ben, c'est très inégal, évidemment, parce que, ben voilà, tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas ingénieur en aéronautique, et donc tout le monde ne connaît pas le domaine de l'autre. Alors, il y a des choses qui sont très vagues. Il y a des choses aussi qui sont redondantes. Par exemple, on nous demande de consacrer une règle qui est déjà de droit positif, par exemple. Mais c'est logique, Parce qu'un citoyen, enfin, nul n'est censé ignorer la loi, c'est une fiction. C'est, donc voilà, il connaît pas. Donc il y a beaucoup de redondances. Et puis il y a des propositions farfelues, le droit d'avoir un pseudo numérique, voilà, consacré par la loi. Ah oui, bon, pourquoi pas. En tout cas, il y a quand même des intérêts très particuliers qui se sont exprimés clairement au détriment, pour moi en tout cas, d'une vision plus générale, un peu plus haute de ce que doit être la loi. Disons que mon jugement là-dessus est un petit peu mitigé. Heureusement, on a eu quand même des propositions assez proches de, comment dire, du texte initial qui avait été proposé, et le texte initial qui a été proposé, il a quand même été rédigé par des experts. Est-ce que cette procédure, elle va nous permettre d'être plus transparent, de voir disparaître le lobbying? Pas du tout, absolument pas. D'abord parce qu'au Conseil national du numérique, d'où est partie quand même la première réflexion, il n'y a pas du tout de représentants de tous les milieux concernés. Donc tous les intérêts ne sont pas représentés. Et ensuite, il y a toujours de toute façon une asymétrie dans les influences, parce que le citoyen, il va participer à la plateforme pour une république numérique, mais ça n'empêche pas le lobbying de se faire à Bruxelles, dans le cabinet du ministre, etc. Donc il y a toujours une asymétrie à ce niveau-là. Comment a été reçu ce processus par le corps social? Très bien. Parfaitement bien. Alors, bien sûr, à nuancer par la faible participation, mais quand même, il y a 80% de votes favorables aux propositions gouvernementales. Donc, c'est une acceptation du corps social absolument incroyable, même si la représentativité est douteuse. Et en même temps, on a envie de se dire, bah tiens, mais si c'est si consensuel, il y avait besoin de faire tout ça, une plateforme, une synthèse, un Fab Lab, un Goof Camp, bon, en tout cas, c'est une belle réussite dans le pourcentage de votes positifs. Plus généralement, est-ce que cette démarche consultative qu'on nous a annoncée, hein, comme innovante, comme tout à fait inédite, en réalité n'est pas très nouvelle. Nous, on la connaît bien au niveau de l'Union européenne. Depuis un certain nombre d'années, l'Union européenne fait comme ça, fonctionne comme ça. Il y a des consultations, il y a des questionnaires, il y a une logique participative, hein, qui émerge où chaque citoyen est impliqué dans la réflexion normative. Alors... Tout ça est très relatif, bien sûr, parce que, par exemple, si vous faites partie du Parti Pirate, si vous soutenez le Parti Pirate avait, pour une consultation sur les droits d'auteur et les droits voisins de la Société de l'Information, avait proposé à ses membres une réponse type, et donc les membres devaient en remplir une bonne centaine, hein, il fallait solliciter également les amis, et puis comme ça, ils ont envoyé plusieurs dizaines de milliers de demandes identiques à la Commission européenne, donc évidemment... La participation citoyenne, c'est toujours, il y a toujours un risque, hein, qu'il y ait des idéologies un peu marquées qui se manifestent. Je viens de commencer. Et puis, on peut se poser d'autres questions. Est-ce qu'il y a un accroissement de démocratie dans ce texte, ou alors est-ce qu'en réalité il y a plus d'instrumentalisation, plus de démagogie? Un accroissement de démocratie, non, c'est pas de la démocratie directe, hein, c'est pas le retour au modèle fantasmé de la Grèce antique, absolument pas. D'abord parce que toutes les propositions n'ont pas été reprises, et puis surtout parce que le texte, il va suivre le processus démocratique normal, classique en France, donc c'est pas de la démocratie directe, les représentants sont toujours là. C'est peut-être une forme de démocratie ouverte que vous connaissez, vous ici, un gouvernement ouvert, mais on m'a dit que ça n'avait pas beaucoup de succès, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pratiquez. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quand même, c'est le moment où j'ai appris qu'Axelle Lemaire était franco-canadienne, et je me suis dit, mais ces Canadiens, comme ils sont forts, au lieu de venir me faire parler de mon texte, moi, qui va rayonner, en fait, tu viens me faire parler d'une idée canadienne qui rayonne sur la France. Donc, je trouvais que c'était une belle instrumentalisation de moi-même. Alors, est-ce que le texte est une instrumentalisation? On sait très bien, nous, par exemple, au niveau européen, quand il y a des consultations, régulièrement fuites, le rapport censé répondre à la consultation alors même que la consultation n'est pas fermée. Donc, tout ça est très relatif. Et puis, pour la petite histoire aussi, il y a eu un Fab Lab pour le projet de loi numérique en septembre qui a été organisé dans l'urgence. Et alors, je reçois un message de la chargée de mission spéciale pour ce projet d'Axel Le Maire qui m'écrit en me disant « Madame le professeur, est-ce que vous pourriez réserver votre samedi quelques jours après. Est-ce que vous pouviez réserver ce samedi-là pour vous et pour vos étudiants ? Alors, on ne sait pas où, on ne sait pas à quelle heure, mais on voudrait parler avec vous d'un projet. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez juste réserver votre journée ? Bon, ça me paraît. Et puis, vous amenez, me dit-elle, des étudiants de M1, c'est-à-dire de quatrième année. Je dis, pourquoi on ne veut pas emmener les étudiants de M1 ? On est en septembre, ils n'ont pas encore commencé les cours sur le droit du numérique, ils n'y connaissent rien. Oui, mais justement, c'est mieux, qu'ils disent. Bon, je suis d'accord, j'y vais pas. Est-ce que c'est de la démagogie, sinon ? Est-ce que, en réalité, oui, on donne l'impression aux gens qu'ils agissent sur le texte, qu'ils participent activement à la chose publique, et c'est aussi important, le sentiment qu'on laisse aux gens. Bon, on va dire que tout ça pour cinq articles, ça pose quand même aussi la question du coût, hein, de la démarche. Est-ce que juste le sentiment pour un citoyen d'être entendu, d'ailleurs quel citoyen et combien de citoyens, est-ce que ce sentiment-là, ça suffit à justifier une démarche qui a dû avoir un coût très élevé, hein, des ateliers, un site, une analyse des résultats, une synthèse des résultats qui a été faite par une boîte de conseil privée, donc ça a dû coûter relativement cher, et en plus ça s'est fait dans l'urgence. Bon, en réalité, il faut comprendre quand même que cette procédure, elle a été mise en place par Axel Le Maire aussi pour légitimer un peu, hein, par avance son projet, parce qu'elle a, vous avez compris au départ, qu'elle a une forte pression sur elle, hein, que tout le monde essaye de lui retirer un petit bout, et donc elle essaye aussi, je pense, hein, de légitimer sa démarche. Alors, le résultat, est-ce que c'est un marketing un peu juridique, normatif, une ubérisation ? Moi, je trouve que c'est un peu marketing quand même. Vous allez consulter, hein, le site peut-être pour vous rendre compte, mais alors on parle anglais. Et alors, les Français, vous, ça vous choque pas qu'on parle anglais, mais la France, c'est pas le bilinguisme, on connaît pas, mais pour faire bien, on peut parler anglais parfois, ça nous arrive. Alors, sur le site, hein, du CNN, dans le rapport, on trouve le copy fraud. Même notre secrétaire d'État, elle parle de copy fraud pour parler de réappropriation abusive. Bon, est-ce que c'est nécessaire ? On parle pas d'agenda, on parle de timeline. Ouais, enfin, pourquoi pas, mais je sais pas si ça nous apporte beaucoup, à part espèce de message qu'on envoie. On nous fournit aussi des outils de marketing. Vous pouvez trouver un kit de présentation du rapport Ambition numérique, c'est-à-dire les slides avec les commentaires qu'il y a en dessous. Vous pouvez trouver aussi, pareil, un document un petit peu similaire, mais pas tout à fait, sur le projet de loi pour une république numérique. C'est-à-dire que j'aurais pu venir ici sans faire le job. Et j'aurais pris les slides, je les aurais réutilisés, je vous aurais fait la présentation, ça aurait été formidable. C'est pas la peine d'avoir un avis personnel ou critique, il suffit de reprendre les instruments qu'on nous livre, déjà tout fait. Donc ça fait aussi un peu marketing. Et puis, il y a autre chose aussi, si vous allez sur le site, moi je trouvais ça absolument incroyable, les principaux apports du texte sont en dessin, type BD. C'est au cas où vous comprenez pas la règle, il y a une BD, quoi. Voilà, donc je trouve qu'on fait un petit peu de... Il y a de la pédagogie, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de marketing. Ça ressemble beaucoup à un site réseau social, vous voyez. C'est vraiment, on a l'impression que vous likez. Vous, bon, pourquoi pas, c'est peut-être nécessaire. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, hein. Non. Le contenu, j'en parlerai très très peu, juste pour vous dire que la forme, hein, qui a été transmise, elle est assez incroyable, c'est-à-dire que le retour qu'on a eu après la consultation, c'est ce document-là, en suivi des modifications, avec des liens cliquables, parfois morts, et des fautes d'orthographe aussi. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, c'est aussi une évolution, hein, possible. Il y a 5 articles, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, issus de la consultation, qui sont d'importance variable. On rentre dans des choses un petit peu techniques.
Voilà. Il y a trois thèmes importants. Je vous avais dit que la loi elle est structurée en trois thèmes. La circulation des données du savoir avec une ouverture des données, et ça c'est quand même intéressant. La possibilité pour un auteur dont la recherche est payée et financée par les fonds publics de diffuser son œuvre à titre gratuit, même lorsqu'il a passé un contrat d'édition à l'issue d'une période d'embargo. Ça, c'est une règle qui est une recommandation européenne et qui existe déjà en Allemagne notamment. Deuxième thème important, la protection de la société numérique. C'est ici qu'on trouve le principe de neutralité du net qui revient en fait à obliger les opérateurs à ne pas discriminer entre les différents acteurs du net. On retrouve aussi la portabilité des données, que ce soit et la récupération des données, que ce soit sur un mail ou des données qu'on aurait externalisées. Des dispositions sur la protection de la vie privée. Sont des dispositions qui vont devoir s'articuler avec le projet de règlement sur les données personnelles. Une disposition aussi à la fin que j'aime bien sur la confidentialité des correspondances privées. On nous dit la confidentialité des correspondances s'applique aux opérateurs de télécommunications en ligne et à ses membres du personnel. Heureusement qu'on nous le dit parce qu'on pensait que eux, la loi ça, s'appliquait pas à eux. Bon, pourquoi pas. Parfois, le rappel, il est pédagogique. Et puis, un troisième thème plus général, je vous ai parlé du peu fourre-tout, l'accès au numérique. Puis, il y a le e-sport dedans. Mais on nous dit rien, on nous dit juste qu'on va y réfléchir. Il y a eu des choses qui ont été mises à l'écart. Par exemple, le domaine commun informationnel. On voulait créer un domaine libre, qui était un domaine qui incluait à la fois le domaine public, c'est-à-dire ce qui n'est plus protégé par un droit de propriété intellectuelle, et aussi qui intégrait des données qui ne font pas l'objet d'un droit privatif. Et on appelait ça le domaine commun informationnel. Vous imaginez qu'ici, Fleur Pellerin n'est pas d'accord, parce que ça, c'est son domaine. Et au CSPLA, les ayants droit, donc Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui est l'organe de conseil de la ministre de la Culture, il y a eu une révolution avec le vote d'une motion qui a été transmise à Axelle Lemaire pour qu'elle retire son article, et il a été retiré. C'est formidable ce jour-là. Je présentais un rapport que je rendais à la ministre et c'était un peu chaud comme thème et je me suis dit je vais me faire assassiner. Et comme ils ont parlé du domaine commun informationnel, moi à la fin, on a remis le rapport avec Pierre Sirinelli. Ils nous ont dit « Oh merci, c'est un beau travail hein. ». Hop, on est parti. Au départ, on voulait aussi parler des exceptions au droit d'auteur dans ce texte, hors de question. Il y avait des propositions pour chiffrer les communications. Vous imaginez aujourd'hui que c'est plus du tout d'actualité. Et puis une proposition pour une action de groupe, intégrer une action de groupe en matière de données personnelles principalement. Petite conclusion, est-ce que le projet de loi numérique, c'est un texte en rupture, c'est un texte disruptif? On aime bien ce mot aujourd'hui, nous aussi on aime bien. Est-ce que le numérique est à ce point en rupture qu'on doit changer complètement nos modèles, nos méthodes? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme total dès lors qu'on parle de numérique? Et avant cela même, est-ce que ce texte, il est disruptif? Sur la méthode, pas vraiment, je vous l'ai dit. D'abord, on connaît ces types de consultations au niveau européen, et puis ensuite, il va y avoir les arbitrages ministériels et puis le processus parlementaire. Et donc, on n'est pas en rupture avec ce qu'on connaît déjà. Sur le contenu, dans ce texte, il y a quand même beaucoup d'évidence, des réaffirmations de l'existence. Je vous ai dit, le secret des correspondances privées, oui, bon, d'accord. La proposition pour promouvoir les logiciels libres dans l'administration, ça existe déjà depuis bien longtemps. Il y a une circulaire qui promeut les logiciels libres. Puis il y a des choses qui sont qui paraissent peut-être pas nécessaires, très pointues, alors qu'on a des principes généraux qui pourraient les couvrir. Puis il y a des dispositions qui vont être provisoires nécessairement, puisqu'on est en plein processus communautaire. Il y a des dispositions aussi, ça m'a fait penser à ça quand tu en as parlé, des dispositions précises, techniques, qui vont mal vieillir. On va y avoir une obsolescence assez rapide de plusieurs dispositions. Bon. Alors, est-ce que la montagne a tout simplement accouché d'une souris? En conclusion, est-ce qu'on ne doit pas retenir quelques aspects favorables, quand même, positifs, hein, de cette démarche? Je crois que si, quand même. L'aspect positif, c'est que on essaye de se réinventer. On essaye de réfléchir, on essaye de faire réfléchir les autres. Et pour ça, rien que ça, c'est intéressant. Le seul problème, c'est qu'on s'y est un peu mal pris, un peu dans l'urgence, un peu sans anticiper. Et du coup, le résultat n'est pas nécessairement le meilleur. Mais en tout cas, c'est une idée. Et peut-être qu'on pourra renouveler cette idée. Peut-être qu'on pourra en tirer des leçons, des enseignements. Peut-être qu'en fait, la consultation, il faut la proposer à tous, mais aussi commander à certains acteurs importants des réponses. Voilà, il y a plusieurs manières, mais en tout cas, peut-être qu'on tirera quelque chose. L'avenir en France, on le rappelait, hein, la France, elle est aujourd'hui, on dit, en tout cas en état de guerre, une guerre d'un nouveau genre. Hein. La réponse française, ça a été, vous l'avez vu, d'intensifier des frappes en Syrie. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose aux attentats en France, mais en tout cas, c'est une réponse qui a été apportée. Notre président annonce également la prolongation de l'état d'urgence. Il a besoin d'une loi. Hein. Et il annonce même une modification de la Constitution pour intégrer dans la Constitution cet état d'urgence-là, parce qu'on a des choses, mais qui sont pas adaptées à ce type de guerre. Dans ce contexte, que va devenir la République numérique? Est-ce qu'on va inclure des dispositions type loi sur le renseignement qu'on a eue en juillet 2015, où on a légalisé les boîtes noires, les logiciels espions, les IMSI catchers? Donc, est-ce qu'on va avoir ça en puissance 1000? Le terrorisme trouve, hein, dans le numérique un terrain d'élection formidable, à la fois un terrain d'expression, un terrain de communication puissant et qui accroît son efficacité. Et le projet de loi pour une République numérique risque fort de porter demain la trace des événements qu'on a connus le 13 novembre, ou peut-être même d'être complètement oublié, parce que le 13 novembre va prendre le pas et que c'est d'autres choses qu'on va faire qui sont beaucoup plus, qui limitent beaucoup plus les libertés. Tous ces prochains mois, gageons que la République numérique ne sera pas une priorité. Et enfin, permettez-moi cette période de deuil qu'on connaît tous, parce que c'est pas un deuil que pour les Français, c'est un deuil pour l'humanité tout entière, parce que c'est un deuil qui fait reculer le sentiment d'humanité de tous les hommes. Et permets-toi une petite digression, puisque je vais passer du numérique au siècle des Lumières, avec une phrase qu'on attribue à Voltaire, mais on n'est pas très sûr. En tout cas, je trouve que cette phrase, elle est belle et elle nous explique des choses. Ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. Voilà, c'est ça qu'on a connu et c'est ça aussi qui va influencer le droit de demain en France, en tout cas sur tout ce qui concerne le numérique. Voilà, merci beaucoup.
On a 10 minutes pour prendre une pause, and if you can stretch, this is the time for us to break.
Yes. I received very good news tonight.
So oh, yeah?
You're going to have, like, a fantastic time.
Amazing. I'm really excited. And you know what it's...
Beyond our expectations, and I have to say, your group has been very nice and very diligent, because this is an experiment.
Yeah.
It's still a lot of work for two creatives.
Yeah, yeah, absolutely. But the last session, by the way, was phenomenal, at least for me and Jennifer, because we felt that it was, we loved that when the grad students are talking about, you know, well, why not just like a new idea? Why not create an incubator? You know, if you're saying that you're having issues getting your research off the ground, why not create incubators with these types of, you know, pledge platforms? Super interesting. So very interesting.
Mesdames et messieurs, je vous invite à reprendre vos places, s'il vous plaît.
I would ask you to return to your seats, please. I'm very happy to pass the microphone to two McGillians. You have two McGillians for the price of one. My dear colleague, Shona van Praal, who I admire secretly and openly. But now I guess this is not a secret anymore. And my student and the student of Shona van Praal as well, Alisa Weisman. I'm very happy that they're closing this session on a very important topic, the cyberbullying.
Thank you. So thank you, everyone, and thank you for, I guess, welcoming me. I'm really excited about this. It's, for lack of a better word, cool. It's really cool. So, to preface this, we're going to do the presentation in English, but afterwards we're very happy to take questions in French, of course. So our presentation is entitled New Encounters, the Challenges of Cyberbullying. So in order for us to first talk about this, I guess we should focus on what is cyberbullying. In this type of situation, I mean, it seems to be quite consistent with bullying itself. That's what we've seen in terms of the definition, at least. Dan Olwis, who's a pioneer in bullying research and a founder of the Olwis Bullying Prevention Program, he said, a person is bullied when he or she is exposed repeatedly and over time to negative actions on the part of one or more other persons, and he or she has difficulty defending himself or herself. And we saw this published in his book in 1993, but he was using it even before in the 1970s and 1980s when he was pioneering this field. And we're seeing similarities now when we look at legislation that's coming out. So, for example, an act to prevent and stop bullying and violence in schools, which is a Quebec piece of legislation that we're going to speak about. They say the word bullying means any repeated, direct, or indirect behavior, comment, act, or gesture, whether deliberate or not, including in cyberspace, which occurs in a context where there is a power imbalance between the persons concerned and which causes distress and injures, hurts, oppresses, so on. So we can see here that the definition is fairly consistent worldwide and entails three criteria: verbal or physical aggression that is repeated over time and that involves a power differential. turning a little bit more to these discrepancies or similarities between bullying and cyberbullying, there is an expert, Emily Bazelon, who wrote a book called Sticks and Stones, and she said, I couldn't write about online bullying without writing about face-to-face bullying too, because Facebook and other social networking sites aren't a discrete walled-off universe. They don't live within a vacuum. She contends that despite wide media attention, cyberbullying is not necessarily more widespread than face-to-face bullying. That being said, she does admit, and I would have to agree, that it presents new concerns. So new concerns include that the internet makes bullying harder to escape. Of course, you return home and you deal with it there. The internet allows the perpetrator to bully without having to confront his or her victim, which may mean things for empathy in terms of some psychological studies. The number of potential witnesses can be exponentially higher, which says something for the bystander effect. And there's the possibility that comments and images or videos can go viral. Importantly, I think something that she doesn't mention, but something that we're going to discuss, is with these undefined boundaries, another concern is whose responsibility is it to prevent or, so to speak, deal with cyberbullying? So I'll turn to another author and expert real quickly, Dana Boyd, who wrote a really interesting book called It's Complicated. Referring, I guess, to the relationship status that you used to be able to use on Facebook. So it's actually a nice little pun. But in any case, Dana Boyd brings to light kind of also these problematic tendencies and reactions that are happening in the face of cyberbullying. So one being scapegoating technology, reason being, of course, that it's easier to focus on what's tangible rather than maybe looking to the broader systemic issues that are at play. She also looks at what she calls parental nostalgia, which is that we idealize our childhoods and forget the problems we faced when we were young, so sort of the back in my day syndrome. She looks to the terminology and the issues with the terminology, things like digital natives or digital immigrants as a terminology that's being used in the field. And what she says is that it draws away attention from the problems that children face in the digital era. So essentially what we're doing is by saying that, you know, well, these kids, they know how to deal with these things because they grew up immersed in digital technology, it kind of puts a lot of the onus on children and allows adults to absolve themselves or to remove themselves from the situation. So really interesting sort of tendencies that are emerging, and it questions, you know, in creating these divides, different stakeholders may actually be able to absolve themselves of responsibility, and again, our question is, when should we be inserting ourselves and also kind of removing ourselves from these situations? So with that, I will pass it off. Oh, my apologies. Actually, one more thing. My apologies. I have one more. Okay, so I'm a newbie. Okay, so real quickly, just to talk about one of the reasons why, I guess, we're talking about this and why we all sort of feel a little bit like experts in this field is because of these highly publicized cases that have sort of emerged in the last little while, absolutely tragic cases, and a lot of the legislation that's emerging is in response to these highly publicized cases. So this image here is from a video confessional from Amanda Todd. In seventh grade, she was persuaded by a stranger to expose herself via webcam. Unbeknownst to her, the stranger screen captured the intimate image and a year later contacted her through Facebook, threatening to circulate the image if she didn't expose herself again. Eventually, the photo was forwarded to numerous close contacts. And according to her YouTube confessional, which was aired immediately prior to her suicide, Amanda spoke about how the incident caused her to develop anxiety and depression, ultimately a substance abuse disorder. And then her and her family had to relocate several times, but every time that she would relocate, she would be persistently bullied, face-to-face bullying and cyberbullied by peers who had seen the photo. And eventually, at the age of 15, in 2012, she did commit suicide. In November 2011, Rehtaeh Parsons, a 15-year-old Nova Scotia student, was raped by four boys at a party. And one of the boys took a photo of the assault and distributed it to other students and throughout the community, and it made the image go viral. And following the distribution of the photo, Rehtaeh's parents began to Rehtaeh's peers began to torment her online and at school, causing her to develop depression and suicidal thoughts. And finally, much like Amanda, she was forced to relocate. Rehtaeh attempted suicide by hanging in April 2013, causing her to slip into a coma, and her parents decided to remove life support 3 days later. And it was upon her death that her parents met with Stephen Harper to stress the need for amendments to the criminal code so something like this would never happen again to other kids. So this is kind of the platform from which a lot of this legislation emerged. And now it is definitely your turn.
Of course, those were absolutely crucial stories to start off our discussion about the challenges of cyberbullying. So as we've just learned from Alyssa, when we think of young people caught in the web, our theme for tonight, we worry about cyberbullying or cyberintimidation, intentional, repeated, hostile, or aggressive behavior. The internet, of course, brings anonymity, speed, widespread, and never-ending impact to the phenomenon of schoolyard bullying that, of course, we all know about. And so we have this combination of violence, words, and images as weapons. So if we were looking for another area of children and law from which to draw lessons, we might indeed turn to that of children in armed conflict and the roles of children as aggressors and victims in war. But instead, we're going to do something a little surprising, and I'm going to draw lessons from children at play. Why? Well, after all, cyberspace is not just full of fear and harm. Instead, it is indeed thought of and experienced by young people as a site of enjoyable learning. This is where they communicate, they have ongoing conversations, they may develop friendships, the web helps them facilitate collaboration on projects. So yes, right, we have widespread access to internet and social media by children and adolescents, but that's for a broad range of reasons and purposes and uses. So if we instead start our discussion tonight by focusing on the potential, positive potential for the ways in which children rely on cyberspace to build, foster, adjust their knowledge and understanding of friendships and relations, then we might actually start to think of the coexistence and sometimes creative use of available tools on the net, and this is where the image of children at play may indeed be helpful in our reflections. So in confronting the complexities of cyberbullying, perhaps the challenge is not so much young people targeting and hurting each other. That, after all, is not so new. Rather, the challenge is in the overlap that cyberbullying exposes particularly well. The overlap between play and war, between vulnerability and autonomy, between the need to be protected and the need to take responsibility for the consequences of one's actions. So again, as Alyssa just said, cyberbullying is perhaps unique in its ability to capture societal interest, engagement, and also fear, and to remind us, and this will be our major theme suggestion this evening, to remind us of the importance of turning to young people themselves for their input and stories and interactions. As we will see, cyberspace and technology have prompted initiatives across a wide legal spectrum, and we will talk briefly this evening about legislation in Quebec aimed at school boards. We will look at the use of private law and the creation of new bases for individual liability to compensate for harm, and we will see that the criminal law, too, has been modified to try to capture some of the worst behaviors in the form of cyber violence and intimidation. So before returning, before turning to all of these responses, as I said, I'm going to turn to the image of children at play, and I'm going to look for lessons taken from a classic site of interaction among children, the playground. So I want you to take a moment, close your eyes. What do you see when you think of a place where young people come together to play? Okay, you can open your eyes. Probably no one had this in mind. Referred to as the strangest playground on earth, the land, this is what it's called, in North Wales, is so far from what we might imagine as a play space for children that many or most of us, and my children included, when I showed this to my youngest child, he said, "Mom, that is not a playground. It is a dump." And and that is indeed what it looks like. It turns out that it's precisely this ragtag collection of broken chairs, piled tires, dirty mattresses, loose hammers and nails, and tin drum fire pits that makes this place so thrilling for kids. Instead, you probably imagined something like this, right? We find bright colors and structures designed for safe play. Indeed, this particular playground is accessible to children with special needs. Or alternatively, some of you, depending on your age and where you grew up, might have imagined this, right? This picture comes complete with your own memories of dangerous moments in a playground where things are all too fast, too high, too hard. So let's go back to the land, playground number one. It turns out that the design of this space is grounded in a philosophy of adventure play and the work of the United Kingdom's Lady Marjorie Allen, a landscape architect and children's advocate who in the 1940s conceived of a playground with loose, manipulable parts characterized by a free and permissive atmosphere. It is a model of a playground that remained the stuff of fairy tales, or perhaps nightmares. It is not necessarily easy to see the potential for enjoyment, creativity, and life lessons. So instead of playgrounds like this in the 20th century, it was, of course, the number three version that we saw across North America and Western Europe, at least, nondescript playgrounds with asphalt, monkey bars, tall slides. And this is a picture of a playground that lacks imagination, pretty black and white, routine, uninspired. Now, these playgrounds, ubiquitous by the 1970s, were particularly dangerous. We might look at playground number three and imagine a story that starts with a loose rung on a ladder up to the top of a slide and ends tragically with a serious fall and resulting brain injury experienced by a young child. And this is indeed the facts of a case in the United States that started the move towards getting rid of these playgrounds. Whatever the way in which responsibility is found, the actor upon which responsibility is pinned, and the victims whose injuries are compensated, the shape of the playground eventually changes. We replace the asphalt, right, through the last decades of the 20th century with soft landings. We throw the teeter-totters in the garbage, we change the building materials, we design ultra-safe play areas, and we fundamentally modify our expectations of adequate security and surveillance. Any playground resembling number three ineluctably moved toward number two by the turn of the 21st century, a playground marked by the investment of resources, increased safety, constant supervision, and decreased harm and injury, along with improved protection and compensation. Now, this playground avoids the pitfalls of the older version. At first glance, it seems stimulating, conceived with young people in mind, welcoming, accessible, but there is something perhaps too safe about this playground. Everything is dictated. The once sharp corners are all rounded. The opportunities to take risks are close to eliminated. So again, let's go back to playground one. If indeed this is a playground, albeit with adventure as an adjective, then what lessons can we draw from it? This playground, created in 2012 in Northern Wales and called The Land, has been described as having a parental nightmare quality, but also thrilling to children. It clearly embodies a reaction to excessive protection, obsessive supervision and intervention, attempts at control, fixed surroundings, and modes of play. perhaps the users of the land, the children, will insist and do insist on their own playground-specific rules for allocating responsibility, compensating for harm, shaping behavior, saying sorry. Maybe the creative chaos of the land would mean that its residents would learn to play together, challenge established expectations, build original structures, and embark on adventures with no fixed endpoint. So there is an obvious invitation here to work through possibilities and tensions in the encounter between practices and principles in the land. Now note, right, none of the big people in this picture, and you don't see many, you see kind of half of a big person if you look carefully in the bottom picture, someone kind of supervising. This is not a parent. This is a play supervisor who is there in an observational and supporting role and will provide emergency care if necessary. Parents are not invited onto this playground. Teachers are not either. The primary function of the adults in and around, outside the playground, right, is not the prevention of harm, per se, but rather to increase confidence, communication, capacity, and empathy on the part of children. So, of course, that's not easy. It's nothing like the often simplistic rules of responsibility and protection, that some of which we will see embodied in the responses we're about to turn to. Rather, of course, it's complicated, just like the title of the book that Alyssa mentioned by Dana Boyd. So now we turn to different forms of lawmaking, whether regulatory, through private law, or in criminal law, to explore the kinds of responses to cyberbullying found in Canada today. Perhaps, as we will see, those responses can't truly capture the complexities of children's reality and interactions, and as a response to our 1970s kind of playground, the dangerous playground, they look more like an attempt to create Playground 2, our ultra-safe playground, than a willingness to imagine the possibilities of this playground, the adventure playground.
Our transitions are effortless. Look at this. Okay, so we're going to now turn, as Professor Van Praag said, we're going to now turn to some of the legislation that has emerged that does sort of resemble a lot of what's going on in the playground too that she had shown. So first, we're going to look at some legislation that's being imposed in schools. And there's a strong focus on the secure learning environment or the safe learning environment. Bill 56, which received royal assent in, I believe, 2012, an act to prevent and stop bullying and violence in schools. It amends the Act Respecting Private Education as well as the Education Act, and it imposes obligations on students, educators, and administrators and school boards. We're going to throw up some provisions as we go through these. Here, for example, you can see, and this again, it's a very repetitive piece of legislation because they for each provision they specify who has these obligations. But here it says an institution providing educational services belonging to categories listed in paragraphs 1 to 3, which is not relevant for this, but must provide a healthy and secure learning environment that allows every student to develop his or her potential, free from any form of bullying or violence. And to that end, the institution must adopt an anti-bullying and anti-violence plan. And what is within this plan is, first of all, it's obviously to prevent all forms of bullying targeting a student or a teacher or other personnel member. And in addition to some of the regulations, the plan has to include the following: an analysis of the situation prevailing at the institution with respect to bullying and violence, prevention measures to put an end to all forms of bullying and violence, in particular those motivated by racism or homophobia, or targeting sexual orientation, identity, handicap, or physical characteristic, measures to encourage students
to collaborate in preventing and stopping bullying, measures to encourage parents to collaborate in preventing and stopping bullying, procedures for reporting or registering a complaint concerning an act of bullying, the actions to be taken when a student, teacher, or other personnel member observes an act of bullying or violence, measures to protect the confidentiality of any report or complaint, supervisory or support measures for any student who is the victim of bullying, specific disciplinary sanctions for acts of bullying, and the required follow-up. So you can see it's very... It's very precise. It really does consider every aspect. Once that's all done, reports have to be sent to the ministry so that they can see that the plan has been carried out. Now, we're seeing similar legislation in Ontario, where they use the term safe learning environment, so secure, safe, and that's in the Accepting Schools Act. So for example, here you see that it requires boards to develop and implement an equity and inclusive education policy, and if required by the minister, submit the policy to the minister and implement changes to the policy as directed by the minister. And the purpose is to promote a positive school climate that is inclusive and accepting of all pupils, including pupils of any race, ancestry, place of origin, color, ethnic origin, citizenship, creed, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, age, marital status, family status, or disability, and to promote the prevention of bullying. And again, it says here you just have the purposes, I'll leave them up here, to create schools in Ontario that are safe, inclusive, to encourage a positive school, to address inappropriate pupil behavior, and to provide pupils with a safe learning environment. So what I just want to, I guess, I invite you to look the legislation up. It's a quick read, which is not always the case for legislation. What's interesting about this legislation is we're seeing an expansion of responsibility. We're recognizing that the divide between on and offline, at home and at school, is false in many ways. And in that way, we're moving towards understanding cyberbullying as a more systemic issue, and thus perhaps the need to adopt a more collaborative approach, which is definitely interesting as an idea. That being said, it also comes from a place where if the child's having a problem, and we see this in the reporting measures, they're expected to tell an adult. Much of this legislation hinges on their reporting procedures and their effectiveness, and ensures that parents have knowledge of what their kids are going through, so making sure that the parents know as well. The assumption is therefore to create a climate where kids are expected and asked to turn to an adult to work things out. And what's interesting in the research is that most children actually will not report. So this can be for a number of different reasons, but they have different ways of sorting these things out. And from that perspective, we're creating or providing resources or creating legislation that is out of sync with child norms. And I invite you to think about whether or not this is counterproductive in some ways if children are naturally inclined to act otherwise. And with that, I will move it to you.
Okay, so I'm going to turn from the schools, from responsibility of schools, to the responsibility of young people themselves, and in particular their parents, and I'm going to do so by focusing on Nova Scotia's Act to Address and Prevent Cyberbullying, also known as the Cyber Safety Act, which created a new tort of cyberbullying. So here's an example of the explicit creation of a basis for civil liability in a common law province, and we find the possibility of compensation and, of course, responsibility in the private law of obligations on the part of young people themselves and of their parents. I'm going to note a few key features of the architecture of the Act, And you will see through that architecture some of the assumptions that are made in this piece of legislation. First up here you have the definition section, and you will no doubt already be looking at where the red arrow tells you to look. That is the definition of cyberbullying itself. And you may be reacting by saying this is extremely broad. Indeed, this act is currently under charter challenge in the Nova Scotia courts, and it will be interesting to watch that go through the courts, the challenge under the Canadian Charter, focused on vagueness in particular, and the challenge on the basis of freedom of expression and liberty. But I'll leave that aside. What we see in the definition, a couple of things that are, I think, significant. First, that the messaging, the electronic communication, must be either intended to cause fear or harm, etc., or ought reasonably to be expected to do so, to cause fear, intimidation, humiliation, distress, or other damage or harm to another person's health, emotional well-being, self-esteem, reputation, etc. And so, of course, one of the questions, along with the questions about how broad this is and how difficult it is to define in some tangible sense emotional well-being and self-esteem, etc. But it's important, I think, to ask what it means ought reasonably to be expected. From whose perspective? From an adult's perspective, a reasonable adult's perspective, or from the young person's perspective? These may be very different things. What a young person understands to be expected to cause harm to another at age 13 may be very different than at age 18, let alone age 25, or, heaven forbid, age 50. So, there's a question. We also move down. I think I'm going to shift to the next place that's interesting in the architecture of this tort and perhaps problematic. You will see here that for the purpose of this act, where a person who is a minor, and that was defined above, less than 19, engages in an activity that is cyberbullying, as defined above, and a parent knows of the activity, knows or ought reasonably to expect the activity to cause fear, harm, etc., and fails to take steps to prevent the activity from continuing, the parent engages in cyberbullying. So here's a definition that the wrongdoing can be on the part of the parent. The wrongdoing, that is, the parent is cyberbullying himself or herself if he or she has this knowledge and has failed to take steps, has done nothing, if you like, in the face of the child's cyberbullying. So this is interesting, right? It turns that behavior on the part of the parent into a source of wrongdoing and a source of liability itself. And finally, we see in the bottom provision here the possibility of joint and several liability between the young person and the parent. This operates somewhat like a presumption of fault that you'd be familiar with under Article 1459 of the CCQ. That is that the parent will be liable unless the parent was reasonably supervising at the time of the activity that caused the damage or made reasonable efforts to prevent the minor from engaging in this kind of activity. And there are various factors listed in the legislation that can be taken into account, including, of course, the age and capacity of the child, whether the electronic device used was supplied by the parent, and whether there was direct supervision at the time. So interesting. I've put 1459 up here just as a comparison. It's not that we don't know this kind of phenomenon, that is presuming fault on the part of a parent and therefore the possibility of a parental liability for the wrongdoing of a child. We see it in the code. We see it in other pieces of legislation. This is a very specific example of the Parental Responsibility Act in Ontario, which I won't go into, but focused on intentional property damage done by young people and shifting responsibility to parents. But it does, of course, raise the question about whether this form of saying sorry, that is paying compensation to a person who receives or exposed to messages that it is reasonable to think would be hurtful, whether that form of saying sorry is effective in terms of guiding the behavior of young people on the net. And now we will shift to the final response, the criminal response.
So, 2 days following the death of Amanda Todd, British Columbia Premier Christy Clark questioned whether cyberbullying ought to be criminalized. And many federal and provincial and territorial ministers responsible for justice and public safety followed suit requesting further research into gaps within the criminal code in relation to cyberbullying, sexting, and the non-consensual distribution of intimate images. In June 2013, the report to the federal, provincial, territorial ministers responsible for justice and public safety, cyberbullying and the non-consensual distribution of intimate images report was published to this effect with the view of developing recommendations to render the criminal code more sensitive to these types of crimes. And at the time, it was Justice Minister Peter McKay expedited the report following the death of Rehtaeh Parsons a little less than a year later. And the June report proposed several recommendations, but notably it argued for the criminalization of the non-consensual distribution of intimate images, which sometimes is put under the lingo or the heading of sexting. As an offense that is punishable by a maximum of 5 years in prison. We could talk about this after, but there was also a number of different other provisions that were put into there that sound a lot like lawful access provisions from prior failed bills. It became essentially a priority. In November 2013, Bill C-13, the Protecting Canadians from Online Crime Act, was introduced by the Conservative government. So as you can see here, and I really do want to focus mostly on this provision, it says it would amend the criminal code by adding 162.1. Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available, or advertises an intimate image of a person, knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty, and as the report recommended, of an indictable offense and liable to imprisonment for a term of not more than 5 years. And here, for example, you have the definition of intimate image, means a visual recording of a person made by any means, including a photographic film or video recording in which the person is nude, is exposing herself or himself, is engaged in explicit sexual activity, in respect of which at the time of the recording there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy, and in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offense was committed. What is really interesting about this law was that it very much so also came into effect because we were struggling with how do we take these acts that are happening between young people that fit very interestingly under the heading of child pornography, right? But we don't really think that's what the child pornography provisions were intended for. So a lot of this emerged as a sort of, we don't want to label these children or young adults sex offenders, but still we're seeing that there is this sort of reactionary response, this sort of punitive response in the face of these types of behaviors. Putting it under the criminal law and amending the criminal code assumes that we are perhaps past a preventative stance, and we do have to be a little bit more reactionary, a little bit more punitive. But what also it assumes is this sort of top-down approach, and as an interesting sort of link to your presentation, Where can we see room for co-creation, perhaps, with children in these types of instances, and not just, you know, criminal law, but in law itself as it pertains to children. Children obviously were not involved in the law or development process for this bill. And the question then becomes, if we're trying to address these norms that are emerging, is followership enough? We impose the law, you follow, or do we need to have a little bit more ownership and accountability? So.
Okay, so I think we've seen that legal initiatives, whether in the form of civil liability, criminal law, or regulations regarding the responsibility of educational institutions, tend to share a desire to find some magic solution. Often provoked by the worst stories of aggression and its consequences, we turn to these mechanisms with something bordering on desperation. We try to eliminate hard surfaces, sharp edges, toxic materials, but even if we could, kids will still get hurt and hurt each other. Indeed, if we listen carefully to children themselves, we might be better able to incorporate into our acknowledgement of the limits of law the fact that taking risks and dealing with harm prepares young people for growing up. They can't develop autonomy or practice resilience if they are always supervised and directed and protected. So this, of course, seems to be both the lesson and the challenge posed by the adventure playground. We can't remove technology, we can't remove childhood or adolescence, we can't remove misbehavior, we can't remove risk and realization of harm. So the challenge is one of recognizing vulnerability, but not letting the impetus to protection take over, of recognizing responsibility, but not assuming completely independent, autonomous action. That is, young people, as we know, are both vulnerable and capable. They make their own decisions, but are at the same time significantly influenced by others. They learn from mistakes, from being hurt, and from the consequences of hurting others. So we might say, or you might be saying, children at play isn't the right starting point at all. That is, cyberbullying is so dangerous that, as I suggested at the outset, the context of children at war would be the more appropriate analogy. So there we go. Child soldiers, as we know, are young, but can commit horrendous atrocities. Here, too, however, we find similar lessons about the complex mix of vulnerability, risk-taking, and accountability of young people. The stories of child soldiers reflect a wide diversity of experiences and various degrees of agency and willingness to engage in violent behavior. So, too, cyberbullies fall along a spectrum as to cruelty of their intentions, the measures they employ, and the actual harm they inflict. Indeed, monolithic images of child soldiers and young cyberbullies quickly disintegrate upon closer examination, examination of motivating and aggravating factors. Just as there is a risk of demonizing child soldiers, there is a risk of demonizing youth engaged in cyber intimidation. But on the flip side, just as there is a risk of thinking young people would never kill if they weren't powerless and controlled, there is a risk of assuming that adults direct children's behavior, both on and off the net, such that appropriate accountability of the young person becomes very difficult to articulate and implement. So whether in the playground or in situations of armed conflict or on the internet, the relations among young people are evolving, dynamic, and sometimes difficult. But the land as an adventure playground is a model for imagining space for children that is built on trust. The risks of harm are there, and they will materialize. But so are the possibilities for rebuilding, for constructive encounters, for rulemaking by the very participants who want to play. That is what makes it a model for meaningful responses to harmful cyber interactions. It reminds us to turn to young people themselves in order to understand the parameters, expectations, vocabulary, tone, and emerging norms of behavior on the net. So in this vein, I'm actually absolutely delighted as a professor to have Alyssa as a student work with me and to bring her expertise and indeed the perspective of the next generation. And she's just going to finish off very briefly with what we might be seeing emerge in terms of looking to young people themselves.
So very briefly, because I do know that we have to get to Q&A, just an interesting sort of thing that's emerging is, for example, and I'll just give one example, because we do find ourselves a little bit at an impasse also in terms of how technology is dealing with this. Facebook, for example, has a social reporting tool now, and this is the blurb they have. We recently unveiled a new social reporting tool that allows people to notify a member of their community in addition to Facebook when they see something they don't like. Safety and child psychology experts tell us that online issues are frequently a reflection of what is happening offline. By encouraging people to seek help from friends and from family, we hope that many of these situations can be resolved face-to-face. And so here, for example, just some screenshots. We've removed your tag from this photo. You could send a message to the person that tagged you. You can also get help from a trusted friend, as you can see in the left image. So, I mean, there is a sort of a move to try and get kids and young adults and just generally Facebook users to deal with this amongst themselves. So speaking just to the gap, to highlight some things, right now a key priority is to encourage children themselves to be responsible for their own behavior and safety as much as possible, to treat children as competent, participatory group, encouraging self-governing behavior, and active agents on the internet with a responsibility to promote their safer and better practices, and lastly, as rights holders, with an expectation of support for online participation, not to demonize, but to really engage them as a participatory group, and hopefully we'll be seeing more online resources that do support them in this endeavor. So with that, thank you.
I would invite Eloise Graton and Alexandra Ben-Simon to join us in the table. By respect to the speakers, I would ask you to remain seated. They worked quite hard to make this evening happen, and we're very grateful to have them. I turn the floor to you, and the mics are here for you to ask questions to our speakers.
Oui, bonjour. Merci toutes les quatre pour vos présentations. J'aurais deux questions. Ma première question s'adresse au professeur Ben-Simon. Je voudrais savoir, dans le contexte actuel, avec les événements qui sont récents, mais avec les positions qui ont été prises aussi par la France et l'Europe, qui sont très attachées à la notion de vie privée puis à sa défense sur le net, qu'est-ce que vous pensez qui va advenir de cette position-là? Est-ce qu'elle risque de faiblir avec les événements récents, ou est-ce que vous pensez que la résistance va être suffisante? Et ma deuxième question est pour Mme Graton. Pour Mme Graton, vous avez dit que vous ne recommandiez pas de modification ni à la loi québécoise ni à la loi canadienne en matière de protection de la vie privée. J'aimerais savoir pourquoi, que vous approfondissiez sur cette question-là. Merci.
Je ne vais pas m'engager dans des propos divinatoires, parce que j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que il y aura, un peu comme il y a eu avant et après le 11 septembre, il va y avoir avant et après le 13 novembre. C'est-à-dire que les choses que les gens n'étaient pas prêts à accepter, parce qu'en France, c'est vrai qu'on est très attaché au respect de la vie privée et des données personnelles pour des raisons historiques. C'est très lié à la Deuxième Guerre mondiale. Si à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu des fichiers, alors ce qu'on a connu, ça aurait été bien pire que ça. Donc, je vais dire qu'il y a une acceptabilité en ce moment maximum. Rares sont les gens qui s'opposent. Il y a encore des gens qui disent oui, pourquoi, comment, vous n'allez pas perquisitionner chez moi. Mais c'est rare, c'est-à-dire que les gens acceptent avec plaisir et l'état d'urgence, et donc les perquisitions, les atteintes à la vie privée, tout ça. Ça ne va pas durer, heureusement, on a tous une capacité d'oublier, mais il est évident que le droit sera marqué par cet événement. Voilà, qu'on sera capable d'accepter beaucoup plus de surveillance qu'avant.
Alors, pour répondre à ma question, c'est-à-dire que j'ai pas dit que je pensais que les lois devaient jamais être amendées. Alors, je vais vous donner des exemples, puis je vais expliquer peut-être plus clairement qu'est-ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut faire attention avant de modifier la loi. Puis, donc, j'avais l'espèce d'acétate où on disait, bon, il faut légiférer en tremblant. C'est-à-dire, il faut y penser deux fois. Surtout dans un contexte où il y a des innovations technologiques et le droit ou la loi ne colle pas parfaitement à la réalité. Je pense qu'avant de se dire, oh, on va changer pour répondre à cette réalité-là, rapidement, ça va être désuet, il va falloir retourner, réouvrir la loi. Je pense qu'il faut faire attention. Ceci étant dit, c'est clair que dans certains cas, il faut amender la loi. D'ailleurs, l'année passée, il y a eu le projet de loi S4 pour amender la loi fédérale du secteur privé. Je suis allée témoigner et j'ai dit, voici deux amendements pour lesquels je suis en accord et voici deux amendements qui amènent pour moi selon pleine inquiétude. J'ai même mis le détail sur mon blog et la loi québécoise du secteur privé, elle est en train d'être revue. Et je soumets aussi mes commentaires, puis je vais les mettre sur mon blog, là, la lettre que je soumets à la Commission d'accès à l'information, je vais la mettre sur mon blog, la date limite, je pense, c'est le 26 novembre. Fait que je vais la mettre et je propose plein d'amendements. Mais évidemment, des amendements qui, selon moi, sont nécessaires et qui ne changeront pas dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, etc. Au niveau du consentement, pour moi, c'est délicat. On veut un consentement flexible. C'est ça un peu le but de mon commentaire, mon intervention, parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles réalités et on va devoir s'ajuster. Et d'ailleurs, je finis avec ce thème-là. J'ai fait ma thèse sur la définition de renseignement personnel, qui est tout renseignement concernant un individu identifiable, plus ou moins. Il y a des petites distinctions entre les lois, mais ça revient un petit peu à ça. Et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette définition-là? C'est une vieille définition qu'on a importée de l'Europe, qui est 30, 40 ans. Est-ce que c'est une bonne définition? Pas certain. Alors, j'ai un chapitre où est-ce que je dis, voici, elle est trop englobante. Après ça, j'ai un chapitre, je dis, elle est pas assez englobante. Après ça, j'ai un chapitre, je dis, elle est remplie d'incertitudes. Mais je venais à la conclusion que malgré tout ceci, je suggérais pas de la modifier, je suggère d'adopter une interprétation qui irait finalement refléter le but ultime de ces lois-là, qu'est-ce qu'on essayait d'adresser comme problème. Mais tout ça pour dire que, oui, je pense qu'il faut, dans certains cas, y avoir des amendements. Pour ce qui est des lois en matière de protection de renseignements personnels, la praticienne en moi n'est pas capable non plus de ignorer l'aspect national ou global de ces enjeux-là. Donc, à la base, on a ces lois-là à cause de l'Europe, pour finalement pouvoir avoir des échanges avec l'Europe. Ils sont en train de faire une réforme. On va devoir se conformer ou peut-être faire certaines modifications pour s'assurer qu'on passe le test de la loi qui est adéquate. Donc, on ne peut pas non plus dire, « Ah, nous, au Québec, on va faire notre petite affaire, puis on pense qu'il faut regarder ça un petit peu avec de recul pour s'assurer aussi que ça fonctionne sur le plan national, sur le plan aussi mondial. » Alors, voilà.
Hi, my name is Mina, and my question is to the last presentation. I was very upset when I read about the story of Rehtaeh Parsons to the point where I drafted a petition and Professor Kotler presented it in Parliament 2 weeks before the government announced its anti-bullying initiative. I was steaming angry. And I was thinking back in my childhood years, and I remember the notion of schoolyard justice. And there were certain rules that you did not break as a kid. You did not pick on a kid who had developmental problems because you were asking to get smacked on the school bus. And nobody said anything, but every smack that bully got, that bully deserved. And I asked myself, where is that schoolyard justice? You see these children, Rehtaeh Parsons, there was another little boy I read who had cerebral palsy, he was made fun of to the point of killing himself. You say in your presentation that children could be a source of trying to make laws relevant, but I ask myself the most basic law amongst children, which is schoolyard justice, which is a fearsome form of justice when you're 7 or 8 years old, where is that? And if there is no schoolyard justice anymore, how can children help us form, like if they don't have this sense of justice, how can they help us form laws that could actually prevent bullying or help victims of bullying?
I think that that's kind of what we're getting at
also is right. We've created children who don't sort of interact with each other in the way that you were talking about. And we're not saying that kids should be beating up each other. That's certainly not. But I mean to say that schoolyard justice doesn't exist in many ways because of exactly what we've created here. We've created environments where we don't let kids deal with these things between themselves. We kind of have removed a lot of the onus from them. And our question is, whether or not we should be in some ways moving back to helping kids get back to those notions of building empathy between themselves, of compassion between children that does emerge in those types of interactions. By the way, that you were mentioning, I don't know if you want to comment a little further on that.
I was just going to say that the question actually helps us see links among all three presentations, and I think the key link is this emergence of social norms. That is, how do we notice, how do we articulate the processes of the creation, enforcement, change, and acceptance of norms of behavior? That's always been a challenge, right? That norms aren't just there. They don't work because they're imposed. They work because people somehow buy into them, right, and work with them and participate in them. I think young people do have a sense of justice. That's not true that they don't have a sense of justice nowadays. I think that's, we have to be careful. I think young people do have very strong senses of right and wrong. They, of course, need guidance, development, education, learning. They have to practice. They have to take risks. They have to figure things out. But they will do that probably better if we also create fora in order to have them participate in a meaningful way.
My question is also for Professor von Praag and for Ms. Wiseman. At the beginning of your presentation, you defined cyberbullying, and one of the components, one of the criteria was an imbalance of power, which I didn't really understand. I couldn't figure out how that applies in the case of cyberbullying. It kind of seems to apply in real physical bullying for obvious reasons. You kind of think of the big physical bully picking on someone half his size, his or her size. In the legislation that you subsequently presented, that issue of imbalance of power didn't seem to be present. So I'm wondering if you can just comment on how important the issue of imbalance of power is and what the implications of not including it in the legislation might be.
I actually noticed the same thing, right? I hadn't thought through the way in which we've always assumed that there's an imbalance of power when we think about bullying, that we can easily identify who's the bully, who's the victim. I think that cyberbullying, I think actually schoolyard bullying, it was never necessarily that easy either, right? We often know that people who are, kids who are aggressive, the next day they're the victim of something, right? It's difficult. Can't just look out at a bunch of kids and say those are the ones who are the bullies and those are the ones who are the victims. But cyberbullying in particular, I think, shifts that. That is, and we see in some of the empirical work done that some of the kids who are engaging in the bullying behavior on the net are the ones who actually know that, you know, that they're not actually the aggressive ones in person, in the hallway, in the schoolyard. So the net gives an opportunity to kind of become powerful through the anonymity, right? You're not through this way in which a little thing that you do can become huge. So I think that may explain why that language isn't used in the pieces of legislation, but I still think there's an issue about power dynamics in the actual activity, the harmful activity that's going on.
And if I may, just real quickly, that's also, I guess, part of the problem is that we're ingrained with these types of definitions. And it's one of the reasons that sometimes, you know, people or children are worried about actually reporting these types of instances is because if the person that's bullying them online is not your typical aggressor, who's going to believe me? That's one of the issues that kids have sort of emerged in terms of their responses is, who will believe me? I'm going to go to a teacher and maybe you know, maybe this is a great straight A student, quiet. So I mean, this is one of the interesting sort of again power dynamics that emerges and why definitions like this are absolutely problematic.
We're going to take one or two more questions, but I would ask to answer quickly.
Clearly, the essential element of seeking a remedy is to know who the perpetrator is. Would someone please speak to laws relating to identifying the perpetrator?
So this is some of the provisions in the Protecting Canadians from Online Crime Act are essentially what they do is to up search and seizure laws and also for example and also to also create a sort of a voluntary way in which law enforcement, for example, could go to telecom companies and say, without a warrant, could you provide us with information on your users? So I mean, there are which has its own problems, by the way, and is much of the reason why Bill C-13 in the first place was criticized, not so much because of what it was trying to do with cyberbullying, but because there was a sense that a lot of these, you know, there was a lot of privacy issues at stake here. Now, So I mean, there is a law that is coming into play in terms of allowing law enforcement to identify perpetrators. Whether or not those will be deemed constitutional is unknown, in the sense that there was a recent decision, R.V. Spencer, right, which said essentially that you can't do that. You can't, you know, have the voluntary. You can't have telecom companies voluntarily giving law enforcement information without a warrant. So, I mean, whether or not those will be deemed constitutional is yet to be seen. But this type of legislation is emerging with supporting provisions within the legislation to enable exactly what you're talking about.
Dernière question. Il nous reste une minute.
Just one example I thought of in terms of power imbalance right away is if there's a sexually explicit photo of me out on the internet, that's a big power imbalance right there. So it's not necessarily in people's nature that the power is imbalanced, but in that situation where you just can't get that back ever. But then the question I had about one of the definitions was, right in the beginning, was deliberate or not. And I'm just wondering about the not deliberate and the blame there and responsibility there.
Well, yes, right. That there's the intentional wanting to hurt someone, and there's basically the possibility we see of responsibility for kind of carelessness, for saying something and not really thinking it through, which is so associated with childhood that it's that of course that's part of the real difficulty here in terms of aiming a whole a basis of liability at young people and assuming that they're going to be held to a standard that they just may not be able to by definition.
Time is up. I would like to thank all speakers. Et merci de nous suivre dans ces rencontres Think Ahead et on va se voir au mois de janvier.